Je me sens voyager. Je me sens voyager. Ma demeure céleste, elle est droite et bien. Je me sens voyager.
And my heavenly home is bright and fair. I feel like traveling on first verse.
My
heavenly home is bright and fair. I feel like traveling on.
No pain nor death can
enter there. I feel like traveling on. Yes, I feel like traveling on. My heavenly home is bright and fair. I feel like traveling on. Its glittering towers, the sun outshine. I feel like traveling on. That heavenly mansion shall be mine. I feel like traveling on. Amen. I feel like traveling on. I feel like traveling on. My heavenly home is bright and fair.
Ma demeure céleste est brillante et droite.
Let others seek a home below. But
laissez les autres chercher une maison ici-bas. Mais laissez-moi voyager.
Deep out or waves are blown. I feel like
qu'il y ait des vagues ou des ouragans.
Oh, I feel like traveling on.
Je me sens voyager.
I feel like traveling on. My heavenly home is bright and
ma demeure céleste est brillante et droite. Je me sens voyager.
Let others seek a home below.
Laissez les autres de chercher des maisons ici-bas. Mais moi, je me sens voyager.
Flames devour or waves or blow, but I feel like traveling on. Amen. I feel like traveling on. I feel like traveling on. My heavenly home is bright and bare. I feel like traveling on. Be good to you.
Est-ce qu'il est bon pour vous? Le Seigneur a été tellement bon pour moi, je me sens voyager.
Feel that blessed home I see. I feel like traveling on. Amen. I feel like traveling on.
Je me sens voyager.
I feel like traveling on. Amen. Feel like traveling on. Let's just clap.
Tapons-le seulement des mains maintenant. Le Seigneur a été tellement bon pour moi.
Amen. Amen. Oh, the Lord has been so good.
Le Seigneur a été tellement bon pour moi. Je me sens voyager.
Until that blessed home I see.
Jusqu'à ce que je vois cette demeure céleste, je me sens voyager.
I feel like traveling on. I feel like traveling on. Amen. I feel like traveling on. Amen. How many feel like traveling on?
Combien se sentent voyager?
That's what we're doing.
C'est ce que nous faisons.
We're traveling on.
Nous voyageons.
Lord's been so good to you.
Le Seigneur,
amen.
Est-ce que le Seigneur a été bon pour vous? Le Seigneur a été tellement bon pour moi. Merci Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Je me sens voyager. Béni soit le Seigneur.
Thank you, Lord.
Merci, Seigneur.
Hallelujah.
Oh, béni soit le nom du Seigneur. Laissez les autres chercher une maison ici-bas, mais je me sens voyager. Il y a des flammes ou des... Comment vous sentez-vous ce matin? Voyagez. Béni soit le nom du Seigneur.
Amen. Brother Branham says,
Papa Adam a dit, un jour,
c'est
ce que vous sentez, vous allez le voir vous manifester droit devant vous. Mais vous pouvez vous asseoir ce matin? Béni soit le Seigneur. Oh, je m'ennuie vraiment de Frère Joseph ce matin. Comment vous sentez-vous? Tout ce que je peux dire, c'est Seigneur, comme quelqu'un a dit, je vais prier pour toi, Frère Samuel. Ne priez pas pour moi, mais priez pour lui. Priez pour notre Frère Joseph. Peu importe où il est, peu importe que ce que le Seigneur met dans son cœur de faire, que le Seigneur bénisse-le. Ma prière, c'est on l'aime, Seigneur. Enlace-le dans tes
I'm so proud of him.
Nous sommes tellement reconnaissants pour lui. Alors, nous t'aimons simplement, Frère Joseph. Oh, Seigneur, bénis-le et sois avec lui. Nous voulons seulement faire une petite annonce. Nous avons donné des petites cartes concernant une prière, une réunion de prière au Branham Tabernacle entre 2h et 3h. Soyez certains de toujours regarder les mises à jour sur le site Internet pour être certain d'être à jour. Ça
n'a
possiblement pas été mis encore sur le site Internet, mais vous allez possiblement le voir bientôt ou demain. Mais nous croyons que cela va être ouvert demain, en 2h et 4h, je suis certain que cela sera une grande bénédiction pour vous de le faire. Alors que le Seigneur vous bénisse ceux qui peuvent le faire. Combien de visiteurs avons-nous ici ce matin? Est-ce qu'il y a des visiteurs? Oh, c'est bien. La famille Lacombe. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Et nous avons Frère Andrew Alaska de la Nigeria. Que le Seigneur te bénisse, mon frère.
Our brother, he's here for
notre frère est ici pour le projet de la tablette. Merci, frère, pour ta position, pour ce message.
So we're just so happy to be here.
Alors, nous sommes seulement contents d'être ici ce matin. J'aimerais vous partager un contraste. Vous savez, les théologiens, les prêtres, les laïcs, nous étudions la parole, nous parlons de la parole, et c'est merveilleux. Tout ce que nous disons doit être jugé par le plan de la parole de Dieu, et nous ne sommes pas qualifiés pour l'interpréter. Tout le monde aurait dû dire amen à cela. Mais les prophètes, ils ne parlent pas seulement de la parole et dire la parole. Mais ils manifestent la parole. Ils parlent la parole. Ils ont la parole. Et ils sont la parole.
Et
ils sont les personnes qui ont la divine révélation de la parole.
There's no judging of a prophet.
Nous ne jugeons pas un prophète.
No judging of a prophet.
Nous ne jugeons pas un prophète.
Amen. Amen.
Bless you.
Qu'est-ce que tu voulais dire par ça, de ne pas juger un prophète? Nous allons prendre Abraham et à travers les Écritures, nous allons seulement parler d'Abraham une seconde. Abraham, je ne dirais pas cela, mais c'est ce que Frère Branham a dit. Je ne fais pas une accusation, mais je fais seulement répéter ce qu'il a dit. Il a donné sa femme à un autre homme. Abraham, la semence royale d'Abraham, il a donné sa femme à un autre homme.
He backslid.
Il est tombé rétrograde, c'est ce que Frère Branham a dit. Je ne fais pas d'accusation à un prophète. Il a quitté le pays que Dieu lui avait dit de rester. Il a menti. Et Dieu lui a dit à ce roi qui était juste, redonne la femme à cet homme. Cet homme est mon prophète. Tu lui redonnes sa femme, et si tu ne le fais pas, et en plus, tu dois lui demander qu'il prie pour toi, sinon ta nation va périr.
Wow! That man's my prophet.
Cet homme est mon prophète.
Have him pray for you and restore his wife.
Qu'il prie pour toi et restaure son épouse.
God sees things a lot differently than we do.
Dieu voit les choses vraiment différemment de comment nous les voyons. Nous ne sommes vraiment très charnels, c'est incroyable. Mais Dieu voit les choses différemment. Vous ne pouvez pas juger un prophète.
Paul was so bold. I love the
Paul était tellement clair.
My terminology, if you will,
c'est ma façon de le dire, mais excusez-moi. Si vous entendez, mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Il était le messager de cet âge. Il avait l'ainsi dit le Seigneur. Il ne faisait pas seulement parler de la parole, il le manifestait cette parole. Dans toute l'Écriture est donné par inspiration à ses prophètes et pour l'instruction, pour la correction, pour que les hommes de Dieu soient parfaits. C'est 2 Timothée 3, 16 et 17. Dans Jean 16, 13,
it says this. Let me read it to you.
Il a dit cela, laissez-moi vous le dire. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir.
Sound familiar?
Est-ce que ça sonne familier?
Amen.
Je vais vous partager ce que Frère Branham a dit à propos de cette écriture. Nous l'avons entendu l'autre jour dans la demeure future de l'épouse céleste. Et si vous êtes l'épouse, combien sont l'épouse? Amen. Si vous êtes l'épouse est une partie du mari. Et si le seul endroit où vous le reconnaîtrez jamais, c'est de reconnaître quelle partie de ce mari, cette parole, vous êtes. Sinon, vous ne pouvez pas reconnaître que vous êtes l'épouse. Combien voit ça? Voyez, vous devez reconnaître votre position. Vous ne pouvez pas reconnaître celle de quelqu'un d'autre. Et si Moïse était venu avec le message de Noé, et Noé en était une partie, mais ça n'aurait pas marché. Et si Jésus était venu avec le message de Moïse, ça n'aurait pas marché. Vous voyez, c'était un autre âge, c'était une autre prophétie, une autre partie de la parole qui devait s'accomplir là. Ils étaient un autre jour de la semaine. Pas on ne peut pas faire le travail du mardi, le mercredi, et le mercredi doit être fait le mercredi, vous voyez. Le samedi, ça doit être le travail du samedi, vous voyez. Et eux, ils reconnaissaient, « Oh, Moïse, nous avons Moïse! » Il a dit, si vous aviez connu Moïse, vous me connaîtriez, car c'est lui qui a parlé de moi. L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. Vous saisissez l'idée? Oh là là, voyez? Et puis Jésus a dit dans Jean 14, quand lui, le Saint-Esprit, sera venu, il vous rappellera Ces choses, vous voyez, vous montrera dans quel jour vous vivez. Ensuite, une autre chose par laquelle vous le reconnaîtrez, c'est qu'il vous montrera les choses à venir. Vous voyez, à nouveau, de côté prophétique, tout à fait, quand il sera venu, vous voyez. Et il va dans un autre message, un guide, il dit cette même écriture. Autrement dit, il sera celui qui révélera la chose, vous voyez. Il sera celui qui révèle la chose.
Let me share another quote with you.
Laissez-moi vous partager une autre citation à propos de cette même citation que Frère Branham avait parlé. Mais Jésus a dit, quand l'Esprit de vérité est venu, voyez, il vous rappellera les choses que j'ai enseignées à votre mémoire, la parole, et il vous montrera aussi les choses à venir. Il y a maintenant la véritable Église remplie de l'Esprit. Elle reste avec la parole, elle reflète la parole. Dieu sur terre, voyez, il n'a pas besoin d'aucun théologien parce que sa parole ne peut être un objet de interprétation particulière. Il interprète sa propre parole en la confirmant et en la prouvant, c'est la vérité.
Amen. That's the truth.
C'est la vérité.
You know, over in Saint Matthew
17:11,
that will restore all things. Not some things, all
pas quelque chose,
things.
Toutes choses
Amen.
Seront restaurées.
And that prophet is
et ce prophète, on le retrouve dans Révélation 10:7. Mais au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé ses serviteurs, les prophètes.
Il a placé
un conducteur particulier dans ce septième ange pour restaurer toutes choses, pour ramener les gens à la vérité.
Un
conduit spécial à cet ange. Et ce plan est, voici, je vous envoie Élie le prophète.
Amen.
Amen. Maintenant, je vais vous demander combien d'entre vous sont une partie de l'épouse? Alors, lui, Frère Branham a dit dans le livre des Sept Angeliques, celui qui aura la plénitude de Dieu suivrait le messager comme le messager est un disciple du Seigneur par sa parole.
Amen.
La voici.
Don't you want to hear what that
ne voulez-vous pas entendre ce que le prophète a à dire?
Frère
Branham dit dans le message la plus grande bataille jamais livrée. Alors, c'est ce que j'ai dit ce matin. Il s'agit d'emmagasiner de la nourriture, d'emmagasiner de la nourriture pour que vous ayez de quoi manger, pour que vous ayez de quoi festoyer. Allez la chercher sur vos bandes. Asseyez-vous à la chaire, à la fraîche, dans la chambre. Peut-être qu'après que je serai parti depuis longtemps, vous souviendrez encore que ces choses sont vraies. Asseyez-vous dans votre chambre et écoutez. Voyez, ceci, c'est la nourriture, l'emmagasinage dans le magasin.
Et
nous te croyons, Abraham. Nous croyons ce que tu as dit.
Amen.
Frère Branham dit dans les Sept Angeliques, au jour du septième messager, au temps de l'âge de Laodicée, son messager révélera les mystères de Dieu révélés à Paul. Il parlera et ceux qui reçoivent ce prophète en son nom recevront l'effet bénéfique du mystère de ce prophète. Et ceux qui l'entendront seront bénis et feront partie de l'épouse du dernier jour. Êtes-vous une partie de cette épouse? Amen. Béni soit le Seigneur.
What is this great evening like?
quelle est cette grande lumière autant du soir? C'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et chaque détail, sauf le corps physique, c'est celui, c'est là. C'est ainsi dit Seigneur, c'est la voix de Dieu pour nous et nous le croyons. Chaque parole, chaque virgule, nous le croyons. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, mais il y a une chose à propos de cela. Nous ne voulons pas avoir nos yeux sur quoi que ce soit d'autre. Il n'y a pas d'autre voix, il y a seulement une voix, et c'est la voix de Dieu. Amen. Et le message, dans le message pour sa parole, il a dit, il était dans les pieds, dans Luther, dans les cuisses, dans Wesley, dans les épaules, la Pentecôte. Vous voyez ce que je veux dire? Il est la tête. Vous avez une partie qui joint cela ensemble. Cette heure dans laquelle nous vivons maintenant, pas la partie des pieds, pas la partie de la cuisse, pas la partie de l'épaule, mais la partie du cou. Est-ce exact? Cela se joint à la tête. Abraham dit dans le même message, il se révèle pas qu'en tant que fils de Dieu, mais en fils de l'homme. Qu'est-ce que cela fait? Malachi 4, exactement. Il n'y a aucun doute à propos de cela. Qu'est-ce que c'est que cela? C'est la tête qui était ici à l'est, est encore ici en Occident. Il y aura de la lumière au temps du soir. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il est ici. Et chaque besoin que nous avons aujourd'hui, Dieu vous l'a déjà donné. Il vous a appelé aujourd'hui à la table pour restaurer toutes choses. Pas seulement notre guérison, mais notre rédemption, notre guérison, et notre âme, et notre corps, toute chose, toute l'épouse est prête pour la résurrection, pour l'enlèvement, pour aller au souper des noces de l'agneau. Et si vous voulez entendre cette parole sur cette bande, cette voix va vous préparer pour cet enlèvement. Et si vous voulez être une partie de cette bande, si vous êtes une partie de l'épouse, et c'est la seule chose qui va vous préparer pour ce temps, et vous êtes une partie de cette parole. Béni soit le nom du Seigneur. Il est confirmé, le prophète de ce jour, une colonne de feu au-dessus de sa tête pour que vous n'ayez pas à poser aucune question de ce que ce prophète a dit. Si un prophète de Dieu m'aurait dit de sauter d'un pont, je n'y penserais même pas deux fois. J'irais seulement et je sauterais en bas de ce ravin. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Très simple. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Tout ce que je veux savoir, c'est ce que le prophète m'a dit de faire. Et si c'est un chemin rapide pour aller dans la gloire, si c'est un test, voir si je vais obéir, ou s'il y a... Peu importe, ça m'importe peu. Amen!
Il
a placé l'épée du roi dans sa main. Il a dit que ça rentrait dans sa main parfaitement. Vous vous souvenez de cette vision, ce rêve que Frère Branham a eu? Il a dit, ceci est mon serviteur, mon prophète. Écoutez-le. Et cette vision, il était assis à la tête de la table. Et et nous mangeons à cette table. Et chaque homme qui l'a entendu parler a entendu ce qu'il a dit. Il était dans le bois, il y avait des écureuils. Le Seigneur lui a parlé. Il a dit, si tu parles pour qu'il y ait des écureuils, peu importe ce que tu as besoin. Il a dit qu'il y a un écureuil de là, d'ici, de là. Il ne l'a pas seulement dit, mais il l'a parlé. Cela est arrivé. Un écureuil est sorti d'ici et de là et de là.
Spoke squirrels into existence.
Il a parlé des écureuils en existence. Il a créé des écureuils.
Praise the Lord.
Béni soit le Seigneur.
What are we this morning? What are you this morning?
Que sommes-nous aujourd'hui? Quelle est la chose la plus glorieuse? Que nous sommes la parole parlée, semence du Seigneur Jésus-Christ.
Amen. That's what you are.
C'est ce que vous êtes.
Amen. Is that what you are by the grace of the Lord?
Est-ce ce que vous êtes par la grâce de Dieu?
Then what did he say?
Et qu'est-ce qu'il a dit?
Demeurez
dans la présence du soleil pour mûrir, pour enlever toute la verdure de nous. Oh Seigneur, c'est notre prière. Enlève toute la verdure de nous, Seigneur. Par ton Saint-Esprit, enlève toute la verdure de nous.
Help me.
Oh Seigneur, aide-moi, s'il vous plaît.
Praise the name of the Lord.
Béni soit le nom du Seigneur.
Let's just sing it to him.
Et chantons-le simplement à lui.
Raise our hand
et levons nos mains
et
pour une rédication et une reconsécration. Chantons-le de tout notre cœur. Ah, oh, Seigneur, enlève toute la verdure de nous. Il est ici.
Alléluia. Il est ici. Amen. Il est ici, holy, holy.
Saint, Saint.
I will bless.
Je vais bénir
his name again.
Son nom encore.
Il est ici.
Écoute attentivement.
Hear him call.
Entendez-le. Appelez votre nom. Il est ici. Vous pouvez le toucher. Vous ne serez plus jamais le même. Il est ici. Il est ici.
Amen. He is here. Holy, holy. I will bless his name.
Je vais bénir son nom encore. Il est ici, écoute attentivement.
Entends-le appeler ton nom.
Il est ici. Vous pouvez le toucher. Vous ne serez plus jamais le même. Inclinons nos têtes.
Gracious.
Précieux
Lord Jesus.
Seigneur Jésus.
Father, so Père,
c'est tellement merveilleux que nous pouvons s'étirer le bras et te toucher, Seigneur, pour que tu nous formes dans ta parole, que tu te révèles à ton épouse, Seigneur Jésus. Et Père, comme c'est tellement bien d'être un chrétien, car nous avons des problèmes, Seigneur. Et il y a des maladies parmi nous, il y a des problèmes ici dans ce monde que nous avons ici, qu'on devons nous occuper, Seigneur. Mais Seigneur, nous pouvons venir à toi, Seigneur, avec cette cette assurance que tu vas t'en occuper. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants que tu prennes soin de ton épouse. Seigneur, alors que chacun d'entre nous qui s'avance avec une requête de prière, c'est à travers le monde entier. Et Seigneur, je prie seulement que tu leur donnes du réconfort, Seigneur, que tu les guérisses, peu importe leur situation, Seigneur Jésus. Je demande seulement que tu viennes et que tu leur laisses savoir que tu es avec eux. C'est tellement une grande chose, Seigneur, de savoir, Seigneur, que même lorsqu'on est malade, que tu es juste ici pour nous supporter, Seigneur. Seigneur, nous t'aimons simplement et nous demandons seulement que tu nous attires plus près de toi. Guide-nous, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Père, nous demandons que tu sois avec Frère Joseph, que tu gardes ta main sur lui. Béni, sois avec lui, Seigneur. Nous te remercions pour ce que tu fais pour nous, Seigneur, et pour cette église, Seigneur. Attire-nous plus près de toi, Seigneur. Nous t'aimons simplement pour ce que tu fais. Nous le demandons dans le précieux nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, il est ici.
Il est ici. Amen. Il est ici.
Je vais bénir son nom encore.
Oui, il est ici.
Écoutez attentivement.
Entendez-le
appeler votre nom. Il est ici. Vous pouvez le toucher. Béni soit le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je suis tellement reconnaissant que nous soyons rassemblés tous ensemble encore une fois sur ce côté-ci. Nous savons que c'est tellement proche. Et j'apprécie ce que Frère Samuel dit ce soir. J'apprécie son amour pour ce message et sa position. Et Frère Samuel, nous t'aimons et nous te remercions. Vous pouvez vous asseoir. Combien veulent avoir cette marche plus près de lui? Je sais que je suis faible, mais qu'il est fort. Béni soit ton nom. Je suis faible, mais tu es fort.
Oh, Jesus, keep me from all wrong.
Jésus, protège-moi de toute blessure.
Oh, I'll be satisfied as long.
Je serai satisfait autant que.
As I walk, let me walk.
Que je marche avec toi, proche de toi.
Oh, just a closer walk with thee.
Seulement de marcher plus près de toi.
Oh, grant it, Jesus, is my plea.
Accorde-le, c'est ma demande.
Yes, daily walking close to thee.
Oui, chaque jour marcher près de toi.
Oh, let it be.
Qu'il en soit ainsi. Cher Seigneur, qu'il en soit ainsi. Tendre Père Céleste, c'est vraiment notre prière dans ces jours, Seigneur, d'être plus près de toi. Chaque pas que nous faisons, être plus près de toi, en regardant ta parole. Seigneur, nous prions alors que nous entendons ta parole, que nous entendons cette parole ointe, et qu'est-ce qui nous donne la compréhension et qui nous révèle plus de toi, Seigneur. Nous prions alors que nous recueillons ces dîmes et ces offrandes, Seigneur, pour cet évangile. Bénis le service. Bénis les gens, Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Just a closer walk with thee.
seulement de marcher plus près de toi.
Oh, granted, Jesus is my plea.
Accorde-le, Seigneur, c'est ma demande.
Oh, daily walking close to thee.
Chaque jour, marcher plus près de toi.
Oh, let it be.
Qu'il en soit ainsi. Cher Seigneur, qu'il en soit ainsi.
And through this world of toils and snares.
À travers ce monde et ces tourments.
Oh, if I falter, Lord, who cares?
Si je tombe, qui se soucie?
And who with me my burden share?
Et avec qui vais-je partager mes fardeaux? Aucune autre personne que toi, Seigneur. Aucune autre personne, sauf toi.
It's just a closer walk with me.
C'est seulement une marche plus près de toi.
Oh, granted, Jesus is my plea.
Accorde-le, Seigneur, c'est ma demande.
I'm daily walking close to thee.
Je marche chaque jour plus près de toi.
Oh, let it be.
Qu'il en soit ainsi. Cher Seigneur, qu'il en soit ainsi.
And when my feeble life is o'er, and time for me will be no more.
Et quand le temps pour moi sera terminé,
just guide me gently, safely o'er.
Guide-moi gentiment à la maison.
To thy kingdom shore.
Dans ton domaine où c'est certain.
Oh, just a closer walk with me.
Seulement de marcher plus près de toi.
Oh, granted, Jesus is my plea.
Accorde-le, Seigneur, c'est ma demande.
I'm daily walking close to thee.
Et chaque jour, marcher plus près de toi, qu'il en soit ainsi. Cher Seigneur, qu'il en soit ainsi. Je suis dans ce nombre. Je suis dans ce nombre. Je suis dans ce nombre, vêtu de blanc.
Oh, I'm in that number. I'm in that number. Oh, robed in white.
Je suis dans ce nom vêtu de blanc.
That blood-washed number.
Ce nom qui ont été lavés dans le sang.
That blood-washed number. I'm in that number.
Je suis dans ce nom vêtu de blanc. Ce nombre lavé dans le sang. Ce nombre lavé dans le sang. Je suis dans ce nombre vêtu de blanc. Jean a vu ce nombre. Jean a vu ce nombre. Ce nombre lavé dans le sang. Jean a vu ce nombre vêtu de blanc. Jean a vu ce nom.
That blood-washed number. John saw that number. All robed. I'm in that number.
Je suis dans ce nom.
I'm in that number. I'm in that number. I'm in that number. All robed in white.
Je suis dans ce nom, vêtu de blanc.
I'm in that number. I'm in that number, all rolling.
derrière ce nom, vêtu de blanc. Je suis ancré dans Jésus. Je suis ancré dans Jésus. Je ne crains aucune vague. Je suis ancré dans le rocher de l'âge. Sur cet océan où il y a beaucoup de vagues, je mets mon espoir dans Jésus. C'est l'ancre de mon âme. Les tribulations peuvent venir. Je me repose sur sa miséricorde et je crois encore plus. Oui, je suis ancré en Jésus. Je suis ancré en Jésus et je n'ai peur de rien. Je suis ancré dans le rocher des âges. Il protège mon âme des choses de Satan. Et il me donne une paix profonde. En lui, je confie toutes choses. Et lorsque j'ai besoin d'aide, il est à mon côté. Oui, je suis ancré en Jésus. Il est mon ami et mon sauveur. Et en lui, j'ai mis mon ancre. Il enlève toutes mes pleurs. Et de là, je vois un ciel qui a été préparé pour moi. Oui, je suis ancré en Jésus. Je n'ai pas peur de ces vagues. Je suis ancré en Jésus. Je n'ai rien à dire. Je suis ancré dans le rocher de l'âge.
Soit le nom du Seigneur.
Vous pouvez vous asseoir à ce moment. Il y a un spécial d'une sœur. Nous ne te demandons pas d'enlever nos tentations. Car nous savons, Seigneur, que tu as dû traverser ce chemin. Nous ne demandons pas de traverser sans... Mais nous demandons la grâce pour nos âmes. La grâce pour vaincre toutes les épreuves. La grâce pour se tenir pour toi.
Your grace to tell this world about your saving plan. That's all
we ask. La grâce de ton sauveur, ton plan rédempteur.
We're not asking for a bed of roses.
Nous ne demandons pas un lit de rose. Car nous savons, Seigneur, qu'avant d'avoir une couronne,
to be spared of our burdens.
Nous ne demandons pas d'être, de ne pas avoir d'épreuves.
But we're asking for grace, Lord.
Mais nous demandons la grâce pour nos âmes.
Grace to overcome.
La grâce pour vaincre
every trial,
toutes les épreuves.
Grace to stand for you.
La grâce pour se tenir pour toi.
Your grace to tell this world about your saving.
La grâce pour parler à ce monde de ton plan rédempteur. La seule chose que nous demandons, c'est la grâce pour tenir.
Total darkness. Fear is in the hearts of all men. While your bride is feasting,
pendant que ton épouse se nourrit de la manne fraîche,
giving
à ta table,
us your grace to stay.
Tu lui donnes la grâce de se tenir.
Grace to overcome.
La grâce de vaincre.
Every trial.
Chaque épreuve. Juste.
Grace to stand for you.
La grâce de se tenir pour toi.
Do our very best. Your grace to tell this world.
La grâce pour dire à ce monde de parler de ton plan rédempteur.
Grace to overcome every trial and test. Grace to stand for thee and do our very best. Your grace to tell this world about your saving plan. That's all we ask, dear Lord, is grace to
stand. Merci, sœur. Oui, c'est certainement notre désir d'avoir la grâce pour vaincre, pour tenir bon. Mais il y avait une grande mort qu'il y a eu. Et il a pris notre place. C'est sa grâce étonnante. Et nous allons maintenant chanter ce petit chant. Il a payé la dette.
He paid a debt he could not owe. I owed a debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away.
J'avais besoin de quelqu'un pour laver mes péchés.
And now I sing.
Et maintenant,
a brand new song,
je chante un nouveau chant.
Amazing grace,
la grâce étonnante.
All day long,
toute la journée.
Jésus-Christ
a payé la dette que je ne pouvais jamais payer.
Pay. He paid a debt at Calvary.
Il a payé la dette au calvaire.
My soul and set me
il a nettoyé
free.
Mon âme et m'a libéré.
I'm glad that Jesus
je suis content que Jésus
ait
effacé tous mes péchés.
And now can sing
a Et maintenant, je peux chanter un nouveau chant.
Amazing grace.
Grâce étonnante. Toute la journée. Jésus-Christ a payé la dette que je ne pouvais pas payer. Chantez-le doucement, lui. Un jour, il reviendra pour moi. Pour vivre avec lui éternellement. Cela va être glorieux de le voir à ce jour. Et je chanterai ce nouveau chant. La grâce étonnante toute la journée. Jésus-Christ a payé la dette que je ne pouvais pas payer. Humez-le doucement. Béni soit le nom du Seigneur. Je voudrais juste lire cette petite citation avant qu'on chante pour cela. Branham a dit dans le message, qu'est-ce qu'il y a? Je me tiens et je fais cette déclaration de mots. Et je dis que rien ne peut venir à cette plateforme sans être diagnostiqué par le secret des cœurs. Et peu importe comment ça peut être grave, il n'y a personne. Il y a eu d'autres réunions, mais à toutes les fois, ils sont guéris. Pourquoi? Quand l'ange m'a rencontré, il a dit, si vous amenez les gens à être sincères, ou si tu es sincère et tu amènes les gens à te croire, rien ne se tiendra devant ta prière. Et je le crois. Et si je peux vous amener à faire la même chose, Louisville, Kentucky, nous allons avoir une secousse comme nous ne l'avons jamais eue. C'est un défi. Mais ce que j'essaie de faire cette nuit, c'est de vous faire voir ce que je veux dire. Et lorsque vous venez, tenez-vous juste là sur sa parole. Il est le sacrificateur de votre confession. Dieu ne peut rien faire à vous, à moins que vous confessiez premièrement qu'il est. Et lorsque vous le confessez, et alors croyez-le, agissez là-dessus, et restez avec ça, et Dieu vous en sortira. Croyez-vous cela? Certainement. Il y a des gens qui croient, et c'est vous, ceux qui écoutent sur la ligne, juste là, maintenant même. Seigneur Jésus, nous t'aimons, et Seigneur, nous t'aimons, nous croyons que tu as envoyé ton prophète, nous croyons ton prophète, peu importe ce qu'il a dit, nous le croyons, nous le confessons, nous nous tenons là-dessus, nous le croyons et nous agissons là-dessus. Il va nous sortir de là. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus Christ soit béni. Crois seulement.
Amen.
Crois seulement, tout est possible. Crois seulement, crois seulement, crois seulement, tout chantons-le encore doucement. Crois seulement. Crois seulement. tout est possible. Avec vos têtes inclinées, nous tournons vers Frère Branham, le serviteur de Dieu, le prophète de Dieu. Inclinons la tête. Seigneur Jésus, berger du grand troupeau, nous sommes tellement endettés envers toi, Seigneur, que nous ne pourrions jamais arriver à te payer l'amour que tu as répandu dans nos cœurs. Nous sentons si indignes tandis que nous courbons la tête et que nous nous tenons en ta présence. Nous te demandons de nous purifier de toute faute et de tout péché. Nous te prions de fortifier nos corps au d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de malades et d'affligés, comme nous le montrent ici les mouchoirs et les requêtes qui nous arrivent par téléphone et de partout. Et nous croyons que nous sommes en train de mettre le point final à l'histoire de ce monde et que bientôt le temps se fondra dans l'éternité. Nous voulons être prêts pour cette heure. Voilà pourquoi nous sommes assemblés ici ce matin, dans le but de nous préparer pour ce moment-là. On m'a dit que beaucoup sont en liaison téléphonique avec nous ce matin, un peu partout dans le pays, d'un océan à l'autre. Où que parvienne notre voix, puisse ce petit groupe être béni. Guéris ceux qui sont malades parmi eux. Et je te prie de purifier leurs âmes de tout mal. Aide-nous ici au tabernacle ce matin, afin que nous aussi nous puissions jouir de ce grand privilège. Et nous te demandons de nous parler aujourd'hui par ta parole écrite et puisse l'Esprit nous révéler les choses dont nous avons besoin. Tandis qu'aux quatre coins du pays, nous nous sommes assemblés, ayant le sentiment que nous sommes un peuple petit en nombre, mais que nous avons une place parmi les rachetés parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Accorde-nous ces choses, Seigneur, et quand nous terminons le service et que nous retournons à nos foyers un peu partout dans le pays, puissions-nous dire, comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Maintenant, Père, je sais que ce que moi je pourrais dire serait certainement insuffisant. Avec les braves chrétiens qui, d'un bout à l'autre du pays, sont maintenant à l'écoute, Ce ne serait pas à la hauteur. Rien de ce que moi je pourrais dire ne pourrait faire aucun bien parce que nous sommes tous dans la même catégorie. Nous sommes des humains, des mortels. Mais que ce soit le grand Saint-Esprit qui parle. Puisse-t-il prendre la parole et simplement se révéler? Nous comptons sur lui maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis moi-même un peu surpris. J'avais dit à mon épouse, si jamais elle est à l'écoute là-bas à Tucson, que je ne pensais pas tenir de service à mon retour. Je n'avais même pas apporté de vêtements. Et j'ai dit à ma belle-fille, elle avait repassé mon veston, je lui ai dit, je me tiens derrière la chair avec, ils ne savent pas que mon pantalon et mon veston sont dépareillés. Ce sont ceux que je portais à la maison, mais ne t'en fais pas, Meda, elle a repassé ma chemise et tout est bien. Maintenant, nous avons ici une requête au sujet d'un très cher frère, et je pense que Prescott, je crois, nous a reliés par le téléphone ce matin, ceux de Prescott, en Arizona. Le père de ce Mercier était en route pour se rendre ici à la Réunion, si j'ai bien compris, il a dû être transporté à l'hôpital, il a été pris d'une crise cardiaque, c'est frère Coggins. Il y a aussi frère Junior Jackson. Je pense qu'il nous est relié par le poste de radio le plus proche, ou plutôt par le poste de téléphone le plus proche à Clarksville ou à New Albany. Et si je comprends bien, son père est à l'hôpital pour y subir une grave opération. Il s'agit d'un cancer du foie. Nous voulons donc certainement nous souvenir de ces requêtes dans nos prières, et il y a d'autres ici aussi, mais nous ne voulons pas prendre trop de temps. Dieu les connaît toutes. Alors prions donc à ce sujet maintenant. Cher Dieu, tandis que ce cher vieillard aux mains ridées, le frère Coggins, un vieux vétéran du champ de bataille, est étendu là, à l'hôpital, quelque part ce matin, souffrant d'une crise cardiaque. Oh Dieu, ce pauvre vieux cœur a eu bien des soucis. Je te prie, oh Dieu, de l'aider. Accorde-le, il aime la vie, comme nous tous, il veut vivre, Seigneur Dieu, accorde-le. Ensemble, d'un bout à l'autre du pays, au nom de Jésus, nous prions pour lui, afin que tu le guérisses et le ramènes. Nous croyons que tu le feras et qu'il se rendra ici même à la réunion. Nous prions pour frère Jackson, pour son précieux papa, qui est présentement étendu là, à l'article de la mort. Lui qui a mis au monde ce brave garçon qui est Junior, je te prie, cher Dieu, de le guérir. Je sais que cela semble impossible. Les médecins, les docteurs ne savent que faire en pareil cas. Mais nous souvenons aussi de frère Hall, de qui le meilleur médecin de Louisville ici avait dit, il ne lui reste que quelques heures à vivre. Il souffrait d'un cancer du foie et il est vivant aujourd'hui par ta grâce, et ça, c'était il y a 25 ans. Je te prie donc de guérir frère Jackson aujourd'hui, Seigneur. Que ta grâce et ta miséricorde soient avec lui. Il y a aussi cette grosse pile de mouchoirs, de linge et d'objets qui ont été déposés ici, ces requêtes. Tu les connais toutes, Père. Je te prie d'accorder la guérison à chacune d'elles au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour commencer ce matin, je vais dire que, premièrement, je ne pensais pas être là dimanche dernier. Et puis, quand nous avons annoncé que je viendrai, Frère Neville m'a fait prêcher, alors nous avons annoncé que j'y serai aujourd'hui. Mais la nouvelle n'a pas été diffusée aux gens un peu partout dans le pays. Par ailleurs, nous avons maintenant ce système téléphonique, ce qui est très, très, très bien. Les gens peuvent s'asseoir là dans leur foyer ou s'assembler dans leur lieu de culte, leurs églises et ainsi de suite et en train de service. J'apprécie cela. Maintenant, je vois que cette semaine, beaucoup de questions ont été déposées ici concernant ce que j'ai dit dimanche dernier dans ce message. Je crois que j'ai oublié pour l'instant comment je l'avais intitulé, mais j'ai mentionné quelque chose au sujet de payer ses dettes. Et vous savez, peu importe ce qu'on peut dire, ce sera mal compris par beaucoup. Non pas qu'ils ne veulent pas mal comprendre, mais c'est simplement que vous comprenez mal. Et maintenant, quelqu'un a dit, devrions-nous acheter une voiture ou bien, que devrais-je? Oh, ce n'est pas à cela que Jésus a fait allusion. Ou la Bible qui dit, ne devez rien à personne. Il s'agit de dettes qui traînent et que vous pourriez payer. Payez-les. Vous ne savez, c'est ce que signifie ne devoir rien à personne. Cela ne veut pas dire, car bien entendu, nous devons notre loyer, notre compte de téléphone, quoi encore. Nous nous devons ces choses et nous les payons, mais une vieille dette qui traîne et que vous pourriez et rembourser, réglez-la, voyez-vous. Ne laissez pas quelque chose comme ça, cela en suspens. Je me souviens d'avoir été malade à un certain moment dans ma jeunesse. Je suis sorti de l'hôpital avec une dette d'environ 2000 $. Il y avait à l'époque la pharmacie de M. Schwaniger. Je lui devais une facture de 300 à 400 $ pour les médicaments. Il ne me connaissait même pas. Et cet homme, je suis allé le voir. Je ne le connaissais même pas. Il les livrait de toute façon. Il n'a jamais refusé de les livrer. Je lui ai dit, je suis en dette avec vous. Et j'ai dit, non pas à Schwinniger, mais je crois qu'il s'agit plutôt de M. Masson. Et là, à l'angle de l'avenue court de la rue Spring, et j'ai dit, je suis en dette avec vous et je suis encore terriblement faible, mais j'essaie d'aller travailler. Maintenant, si je ne peux pas vous payer, je vais simplement... Je venais juste de devenir chrétien. J'ai dit, M. Masson, j'ai en premier lieu un devoir envers Dieu. Je lui dois ma dîme. Je veux premièrement lui payer ma dîme. Et j'ai dit, mon devoir souvent, c'est de payer mes dettes. Mon père est souvent malade et nous sommes une famille de 10 enfants, mais... Et j'ai ajouté, si je ne peux pas vous payer plus de 25 cents, sur le montant de cette facture à chaque jour de paie si je n'arrive même pas à le rembourser. C'est 500, c'est 25 cents, je passerai vous le dire. Je vous dirai, je ne peux pas le faire pour cette fois-ci. Avec le secours de Dieu, je rembourserai chaque dernier sou, voyez-vous. Mais c'est ce que je veux dire, voyez-vous. Quelqu'un qui dirait à un moment donné, un certain chrétien de cette église-ci avait fait faire du travail sur une voiture et cet homme est venu et il avait dit à cet homme, je vais vous payer, je touche ma paie samedi ou quelque chose comme cela. Il ne l'a jamais payé. Les semaines une après l'autre sont écoulées. Il ne l'a jamais payé. Et il n'est jamais allé lui en parler. Cet homme est venu me demander. Il a dit, voyez-vous, cela nuit à la réputation de l'Église. Cela déshonore le nom de Christ. Si vous ne pouvez pas le payer, allez lui dire, dites, je suis en dette avec vous et je vais vous payer. Je suis chrétien. Mais je ne suis pas en mesure de le faire tout de suite parce que je dois ceci. Et souvenez-vous, elle est aussi inscrite sur le livre de Dieu. Vous savez, cette dette, donc, je tâche moi-même de tout. Et tous ensemble, tâchons donc d'être prêts, car nous savons que nous approchons de quelque chose. Nous sommes très près de quelque chose qui va bientôt arriver. Bien, nous désirons maintenant nous préparer pour parler d'un petit sujet que j'ai choisi avec l'aide du Seigneur pour ce matin, et nous parlons le moins longtemps possible à cause des gens qui nous sont reliés par le téléphone. J'espère que vous avez tous aux quatre coins du pays une belle matinée comme celle que nous avons ici en Indiana. Il fait beau et frais. Nous avons du beau temps depuis qu'il y a plus de temps super. Maintenant, je désire dans le livre des Hébreux, chapitre 1er, et un passage du livre de Jean, chapitre 1er, Hébreux 1, 1 à 3, et de Jean 1, 1. Nous servirons de texte. Mon sujet de ce matin est une étude des Écritures. Lisons maintenant Hébreux 1, 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Quelle lecture magnifique! Maintenant, Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bien. Et mon sujet de ce matin est Christ est révélé dans sa propre parole. Ce qui m'a décidé à parler là-dessus, c'est que, sachant que ce que nous disons ne doit pas simplement être dit parce que nous sommes assemblés pour parler de n'importe quoi au hasard, mais ce doit être quelque chose qui aidera à stabiliser les gens. Quand nous allons traverser des eaux dangereuses, perfides, nous sommes déjà en train de naviguer à travers elles. Parfois, j'imagine bien que vous devez ressentir la même chose que moi. On dirait que tout cela est en grande partie bien angoissant. Je parlais à un jeune ministre de l'Évangile et à son épouse dans la pièce il y a juste quelques instants. Et tous deux sont nerveux, comme le reste du monde, comme tous les autres êtres humains de cette terre. J'ai dit, rappelez-vous, Satan va vous frapper, vous donner un coup. Peu importe qui vous êtes, Dieu, il a droit à ce coup-là. Quelle forme préférez-vous qu'il prenne ce coup? Que vous soyez aveugle, ou arthritique, et condamné à rester assis dans une chaise, ou bien nerveux? Voyez-vous, il y a un endroit quelque part où il peut vous frapper. Il y a un endroit, ce point vulnérable. Voilà l'endroit que vous devez tenir couvert tout le temps. Et de voir cet âge nerveux dans lequel nous vivons, je pense que les bandes de la semaine dernière vous révéleront les choses horribles dont nous parlerons un de ces jours lorsque nous pourrons trouver un endroit assez grand, l'ouverture de ces derniers fléaux qui seront déversés sur la terre, ou plutôt de ces coupes, ou du déversement des coupes, ou des sept tonnerres, ces spectacles horrifiants qui vont apparaître sur la terre. Les hommes, les gens d'aujourd'hui sont présentement dans un tel état de nervosité, névrose, le monde entier. Lisez le Reader Digest du mois dernier. Et vous remarquez que le sujet en est Billy Graham, le grand évangéliste. Il était devenu tellement fatigué qu'il ne pouvait même plus tenir ses réunions. Alors il est allé à la clinique Mayo pour un examen médical. Il n'avait rien, seulement semble-t-il qu'il ne travaille pas assez fort. Ils ont donc prescrit la course à pied, l'exercice physique. Il court 1 mile par jour. L'article ajoute ensuite que la science a prouvé qu'aujourd'hui, les jeunes enfants, les petits garçons et les petites filles parviennent à un âge mûr, à l'âge de 20 ans. Et à 20 ans, très souvent, dans bien des cas, les jeunes filles ont déjà passé la ménopause. À l'âge de 25 ans, je ne sais pas si vous en avez eu connaissance ou pas, mais l'autre soir, tandis que le Saint-Esprit parlait ici à la réunion, il y avait une petite fille assise juste là, et c'est exactement ce qu'il a déclaré qu'il n'allait pas avec ses chers enfants. Je l'ai regardé une seconde fois, j'ai regardé encore, et j'ai vu ce que c'était. Je me suis dit, c'était possible, cet enfant est trop jeune, mais c'est ce que c'était, la ménopause. Elle avait peut-être 20 ans, 23 ans, ou quelque chose comme ça, vous voyez. Ma mère et votre mère ont passé cet âge à l'âge de 45 ans. Ma femme a passé cet âge vers 35 ans, et voilà qu'à présent, c'est 20 ans. La race humaine entière est pourrie. Mais alors, si l'être physique de notre corps se détériore à ce point, à force de manger des aliments hybrides, de tension, qui le font pourrir, tout cela ne fait que... Ne fait-il pas aussi pourrir les cellules du cerveau? Nous pouvons alors comprendre comment les femmes peuvent sortir nues dans les rues. Nous pouvons comprendre comment ils peuvent filer à toute allure dans les rues à 120 000 à l'heure et à toutes ces choses. C'est au point que la nation entière, le monde entier, pas seulement cette nation ici, mais partout, tous sont finis au point de vue mental. Et puis, le Seigneur voulant, quand nous aurons ouvert ces 7 coupes et que nous montrerons ces choses horribles au bout d'un certain temps, les hommes seront tellement fous qu'ils s'imagineront voir des fourmis de la taille d'une montagne. Les femmes seront tourmentées, des sauterelles aux cheveux longs apparaîtront sur la terre pour tourmenter les femmes qui auront coupé leurs cheveux. Elles auront des cheveux comme des cheveux de femmes qui prendront de longues dents comme des dents de lion, des aiguillons dans la queue comme un scorpion et ainsi de suite pour tourmenter les hommes de la terre. Mais à ce moment-là, il sera trop tard pour faire quoi que ce soit à ce sujet. Mettez-vous en règle tout de suite, voyez-vous, du tourment. Et dimanche passé, nous avons étudié ces sphères. Nous avons parlé des 5 sens de la sphère extérieure qui sont les portes d'accès, les 5 sens du corps. Et il n'y a qu'un seul moyen d'avoir accès au corps, c'est par ces 5 sens, la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Il n'y a aucun autre moyen d'établir un contact avec le corps. Et à l'intérieur de cet homme-là se trouve l'homme qu'on appelle l'esprit. Lui possède aussi 5 sens, pensée. La pensée, et la pensée, et l'amour, et la conscience, et ainsi de suite. Très bien. Or, vous ne pouvez pas réfléchir à votre corps. Vous réfléchissez avec votre pensée. Et c'est là que trop de chrétiens s'arrêtent. Ils peuvent, tout comme le blé dans le champ et la mauvaise herbe dans le champ, être loin du même Saint-Esprit dont le véritable croyant est loin. Mais là, à l'intérieur de la sphère suivante, la troisième sphère se trouve là. Et elle est prédestinée par Dieu. C'est là que repose la véritable germe semence à l'intérieur. N'oubliez pas ceci. Si je prenais un gratteron et l'ouvrais, avec un couteau que j'y greffe le cœur d'un grain de blé et que je mette à l'intérieur, et qu'ensuite je l'enterre, cela ferait produire du blé au gratteron. Peu importe l'apparence extérieure, peu importe les émotions, il y a tant de confusion aujourd'hui au sujet de l'évidence du Saint-Esprit, et ainsi de suite, Satan peut imiter n'importe quel don que Dieu possède, mais il ne peut pas apporter cette parole mot à mot. C'est là qu'il a échoué dans le jardin d'Éden. C'est là qu'il a toujours échoué. C'est là que les bandes sur les faux oints ou les oints peuvent être oints de l'esprit, parler en langue, danser, crier, prêcher l'évangile. Et malgré tout, un démon. C'est l'intérieur qui compte. Rappelez-vous, Jésus a dit, « Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Nul ne peut venir si mon Père ne l'attire premièrement. » Au cours de cette leçon, nous avons montré comment, physiquement parlant, vous étiez dans votre arrière-grand-père dès le début. C'est donc ce que vous êtes par nature quant à l'être physique. Il arrive parfois qu'un enfant roux naisse d'une famille Cela étonnera beaucoup le père parce qu'il ne connaît personne de sa famille ou de celle de sa mère qui soit roux. Mais si vous remontez plusieurs générations, vous découvriez que quelqu'un était roux. Cette semence se transmet continuellement de l'un à l'autre et vous prenez la nature de quelqu'un très loin en arrière. C'est ainsi qu'il est déclaré dans Hébreux au chapitre 7 que Melchisédek, qu'Abraham lui paya la dîme lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et Lévi, qui perçut la dîme, paya la dîme, car il était dans les reins de Melchisédek, ou plutôt dans les reins d'Abraham lorsque celui-ci alla au-devant de Melchisédek. Or, c'est la même chose ici. Si vous êtes un fils de Dieu, et si je suis un fils de Dieu, ou une fille de Dieu, nous étions en Dieu au commencement. Et lorsque Jésus est devenu la plénitude de la parole, nous étions alors en lui, sous forme de germe. Lorsqu'il fut crucifié, nous avons été crucifiés dans son corps. Lorsqu'il ressuscita des morts, nous sommes ressuscités avec lui. Et maintenant que nous avons reconnu cela, nous sommes désormais assis ensemble avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voyez-vous? Car il, nous, si nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des attributs de Dieu. Alors nous avons la vie éternelle et Dieu est la seule vie éternelle qui soit. Alors nous étions en lui dès le commencement. Et lorsque Jésus est devenu toute cette parole, nous étions une partie de lui à ce moment-là.
Amen.
Voilà. Une fois pénétré de cela, aucun démon, aucune puissance, rien ne peut jamais l'ébranler. C'est le point d'attache de l'âme. Vous pouvez être loin ici dans l'esprit, éprouver des désirs et faire toutes ces autres choses. Mais pour que ce qui est de ce point d'attache dans cette parole, pas question que vous bougiez de là. Celui-ci tiendra ferme et restera tout ce qu'il y a de plus fidèle à cette parole. Sans cela, peu importe ce que vous faites, vous êtes quand même perdu. Cet âge de l'âge de l'Odyssée, nu avec le misérable, ils ne le savent même pas. Vous voyez, c'est ce qu'ils ont. Loin du véritable esprit, voyez-vous, le Saint-Esprit peut tomber sur un homme dans son esprit. Mais c'est son âme qui est son germe. Ce germe est la parole, voyez-vous. Et peu m'importe combien vous prêchez, comment vous faites bien ceci, combien vous aimez, ça c'est des entrées de l'esprit. Vous ne pouvez pas aimer avec votre corps. Vous aimez avec votre esprit, c'est une des entrées. Vous pouvez aimer et même aimer. Dieu et malgré tout n'a pas été en règle. Vous pouvez chasser des démons et prêcher et faire ces choses et malgré tout vous n'êtes pas en règle. Jésus l'a dit. Il a dit que beaucoup viendront ce jour-là. C'est cette parole qui tranche la question. Et au commencement était la parole et la parole est avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole est devenue chair, elle habitait parmi nous. Remarquez, je vais parler du sujet biblique suivant. Christ révélé dans sa propre parole. J'en suis venu à cette conclusion pendant que j'étais dans mon bureau. Une chère personne qui est peut-être assise ici ce matin, il y a accroché dans mon bureau un tableau. C'est un portrait de Christ de Hoffman imprimé dans le texte des Béatitudes, lorsqu'on arrive à l'endroit où il faut mettre des cheveux ou simplement peser un peu plus fort sur la plume et à cet endroit-là, le voilà donc qui regarde du milieu de sa parole, Christ dans les Béatitudes. Qui que ce soit cette personne, je vous en remercie. Quelqu'un a aussi apporté et placé dans mon bureau un tableau représentant Lily en train d'être enlevée sur un champ de feu. Nous apprécions ces choses très souvent. Il y a beaucoup de monde que je n'ai simplement pas l'occasion d'en parler, de dire ces choses. Mais je le vois, frère. Je le sais. Dieu le sait. Je vais donc parler sur le sujet de Christ révélé dans sa propre parole. Voilà qu'au milieu des béatitudes se détachant un portrait de Christ bien en relief. C'est de là que m'est venue l'idée de ce sujet. Maintenant, Christ et la parole, c'est la même chose. Voyez-vous, ils disent, comment la Bible a-t-elle? Les gens disent, il n'y a pas longtemps, j'étais en voiture avec un homme, il m'a dit, pensez-y. Nous ici, sur cette terre, au point où nous en sommes, nous pouvons seulement savoir ou nous pouvons seulement prétendre que nous sommes sauvés d'après une fable juive quelconque appelée la Bible. J'ai dit, monsieur, je ne sais pas comment vous pouvez dire cela, mais je ne crois pas que ce soit une fable juive. Il a dit, mais pourquoi priez-vous? À qui adressez-vous vos prières? J'ai demandé ceci à cela et j'ai demandé certaines choses. Je n'ai pas été exaucé. J'ai dit, vous priez mal. Nous devrions jamais prier pour changer la pensée de Dieu. Nous devrions prier pour changer notre pensée. La pensée de Dieu n'a aucun besoin d'être changée. Voyez-vous? Elle est juste. J'ai dit, non. non pas ce que, pourquoi vous priez. Je connais un jeune catholique qui, à un moment donné, récitait des prières selon les livres de messe pour que sa mère reste en vie. Elle est morte et il a jeté les livres de messe au feu. Eh bien, vous voyez, les livres de messe, ça ne me dit pas grand-chose, mais de toute façon, vous voyez, ce qui est, c'est que vous adoptez une mauvaise attitude. Vous essayez de dire à Dieu quoi faire. La prière, ça devrait être « Seigneur, change-moi pour que je m'ajuste à ta parole, non pas « change », non pas « laisse-moi changer ta pensée », mais « toi, change ma pensée », voyez-vous. « Toi, change ma pensée pour qu'elle soit conforme à ta volonté, et ta volonté est écrite ici dans le livre. Et Seigneur, ne me laisse pas aller avant d'avoir changé ma pensée pour qu'elle soit exactement comme ta pensée. Ensuite, lorsque ma pensée sera comme ta pensée, je croirai chaque mot que tu as écrit. Et tu as dit là-dedans, et tu feras concourir toutes les choses au bien de ceux qui t'aiment. Et je t'aime, Seigneur, tout cela concourt donc au bien. J'ai passé cette semaine à la campagne chez de très chers amis. Et bien, tandis que nous étions à la table en train de manger, j'ai demandé à certains d'entre eux, nous avons l'habitude de rester à table et d'avoir ensemble une petite étude de la Bible. Nous parlons au sujet de l'amour. Et une certaine personne m'a dit, il a dit, je crois que vous êtes un antichrist. J'ai dit, cela peut faire plaisir à mon Seigneur, c'est ce que je veux être. Je veux être tout ce qu'il veut que je sois. Je l'aime. Et s'il me jetterait en enfer, je l'aimerais quand même. Si j'y allais avec le même esprit que celui que j'ai présentement, il m'a regardé un peu drôlement. Il y avait 4 ou 5 jeunes hommes qui étaient là avec leurs jeunes épouses, de braves femmes. Et je les ai regardés et je savais combien ce garçon aimait leur épouse. Aussi, j'ai dit, voici la façon de mesurer la chose. Si votre épouse, avant que vous soyez mariés maintenant, retournez en arrière. Disons que cette vie conjugale, vous aviez rêvé que vous étiez marié, vous n'étiez pas vraiment marié, vous avez seulement rêvé que vous l'étiez au réveil, vous êtes allé en parler à votre petite amie, vous lui disant, tu sais, j'ai rêvé que nous étions mariés, que nous avions des enfants et que nous étions heureux, et dans l'attente de la venue du Seigneur et tout, et ensuite cette fille vous dirait, tu sais, j'aime un autre homme plus que toi, je serais plus heureuse avec cet homme. Pourriez-vous du fond du cœur l'aimez assez pour dire que les bénédictions de Dieu reposent sur toi, ma chérie. Va avec cet autre homme. Maintenant, vérifiez bien cela à chacun de vous, les hommes, et les femmes aussi. Voyez-vous? Eh bien, si votre amour est conforme à ce qu'il doit être, c'est ce que vous feriez, car vous êtes intéressé à son bien-être. Vous savez qu'elle pourrait être à vous, que vous pourriez vivre avec elle, que vous, elle est votre épouse, ou plutôt elle le serait, elle accepterait de se marier avec vous, mais elle ne serait pas heureuse, elle serait plus heureuse. Et si vous l'aimez, alors vous désirez son bonheur. Par conséquent, quelle que soit la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite, que cela fasse mon bonheur ou pas, je vais vivre d'une façon telle qu'il soit content de moi. Donc, vérifiez votre objectif et votre motif. C'est ainsi que vous saurez si vous aimez Dieu ou pas. Qu'en serait-il s'il disait, tu m'as servi, mais je vais te rejeter? Je t'aime quand même, voyez-vous. Par conséquent, si l'Église pouvait voir cela et le croire de cette façon-là, on n'essaierait pas d'arracher le ballon à l'autre type tandis qu'il est en train de courir avec, mais on le protégerait plutôt, voyez-vous. S'il y avait un motif ou un objectif vrai et authentique, on ne serait pas là à essayer de dire, hey, moi aussi, j'ai ceci. C'est moi, ceci. Voyez-vous, Dieu ne peut plus pas utiliser cette personne-là. Il y a tellement d'imitations qui suivent. C'est ça, c'est Satan et les gens ne s'en rendent pas compte. Ils essaient d'ôter le ballon à celui qui leur a été donné. Que Dieu suscite un certain ministère et voyez combien vous vont essayer de l'avoir aussi, voyez-vous, vous voyez. Alors, un amour authentique pour Dieu dira, quel que soit mon rôle, Seigneur, si je peux seulement dire un mot favorable, aider à protéger, alors laisse-moi le faire, voyez-vous. Et ce sera la même chose pour votre épouse. Si vous l'aimez vraiment, voyez-vous, ce n'est pas un amour filéo, c'est un amour agapo, un amour authentique. Si elle pouvait être plus heureuse en vivant avec quelqu'un d'autre, seulement, attention, vous n'êtes pas encore marié, parce que, bien sûr, vous ne pouvez pas. Pendant que j'y pense, les gens qui écoutent ces bandes, tant que des gens m'écrivent en disant, eh bien, dans mariage et divorce, vous avez dit ceci, vous avez dit cela. Combien de fois je l'ai répété? Ces bandes ne s'adressent qu'à, je parle à mon assemblée, frère. Je ne suis pas responsable de ce que Dieu vous a donné à paître. Je suis responsable du genre de nourriture que je donne à ces gens ici. Ceci s'adresse uniquement à ce tabernacle, voyez-vous? Or, si les gens veulent écouter les bandes, cela les regarde. Mais je parle à ceux que Dieu m'a donnés. Ce sont leurs péchés à eux qui ont été remis. Quelqu'un a écrit et dit, eh bien, je fais ceci et j'ai fait cela. vous êtes dit que nos péchés. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit, comprenez-le bien, ceci concerne uniquement les gens qui sont ici même. Les gens qui sont dans le tabernacle, mon propre troupeau. Maintenant, les gens veulent hybrider la nourriture et ainsi de suite là-bas. Vous obtenez vous-même de Dieu la révélation et faites ce que Dieu vous dit de faire. J'en ferai autant. Mais ces messages s'adressent à cette église ici. Remarquez, nous en revenons donc au fait qu'il nous faut avoir quelque chose à quoi nous accrocher. Il faut y avoir quelque chose qui est un point d'attache. Autrement dit, c'est un point de référence finale. Et chacun doit avoir un point de référence finale ou un absolu. J'ai prêché là-dessus il y a des années sur un absolu, un endroit où se trouve le dernier mot. C'est comme l'arbitre dans un jeu de ballon. S'il dit que c'est une prise, c'est exactement ce que c'est. Peu importe comment vous l'avez vu, l'arbitre dit que c'est une prise. Vous dites, ce n'était pas une prise. Il est allé, j'ai vu le... Peu importe ce qu'il en est, une fois qu'il a dit prise, c'est réglé, un point c'est tout. Et il est le point de référence finale. Le feu de signalisation est aussi un point de référence finale. S'il dit départ, je vous dis, mais je suis pressé, je dois... Non, le feu dit, toi, tu ne bouges pas, tandis que l'autre type va passer, voyez-vous, c'est le point de référence final. Or, il doit y avoir un point de référence final à tout ce que vous faites. Il devait y avoir un point de référence final lorsque vous avez choisi votre épouse. Il devait y avoir une femme que vous deviez choisir. Quand vient le moment d'acheter une voiture, il doit y avoir un point de référence final pour votre choix. Et qu'est-ce que sera Ford, Chevy, Plymouth, une voiture importée, peu importe. Vous devez avoir un point de référence finale. Il y en est de même pour la vie chrétienne. Il doit y avoir un point de référence finale. Maintenant, si un homme disait, s'il avait vers un autre homme en disant, s'il avait entendu quelqu'un dire, eh bien, vous devriez être baptisé, que cet homme n'est jamais, peut-être qu'il appartient à une église qui ne baptise pas, qui ne fait qu'asperger. Je pense que, prenons par exemple les méthodistes. Si je ne me trompe pas, ils baptisent sur demande. Alors, prenons les catholiques. Je pense qu'ils ne font qu'asperger. Ainsi donc, si cet homme entendait parler du fait d'être immergé dans l'eau, eh bien, il ne comprendrait pas cela. Ayant été élevé dans la foi catholique, il va donc voir le prêtre et dit, « Père, il paraît que nous sommes censés être baptisés par immersion. » Que dit l'Église à ce sujet? Eh bien, elle dit que nous sommes censés être aspergés. Or, si cette Église est son absolu, cela règle la question, cela met fin à toute contestation, l'Église l'a dit, un point c'est tout. Que se passerait-il si un vrai baptiste nous entendit dire que nous croyons dans le fait d'être baptisés par immersion? Il dirait, je crois cela. Et dans le nom de Jésus-Christ, maintenant, ce membre d'Église retourne vers son pasteur et dit, « Pasteur, j'ai entendu un homme me dire que nous devrions être baptisés par immersion, d'accord, mais dans le nom de Jésus-Christ, eh bien, dirait-il, voyons voir. Mais le livre déclare ici que nous devons être baptisés en utilisant Père, Fils et Saint-Esprit. Si cette Église-là est son absolu, cela règle la question. Il ne se soucie pas de ce qu'on peut déclarer ailleurs, c'est son absolu. Chaque dénomination est un absolu pour ses fidèles. Mais quant à moi, et quant à ceux que j'espère bien être en train de conduire à Christ, et par Christ, la Bible est notre absolu. Peu importe, parce que Dieu a dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge, et la mienne pour vérité, et je crois que la Bible est l'absolu de Dieu. Peu importe ce que quelqu'un d'autre a à dire, elle est l'absolu. La Bible n'est pas un livre de système. Non, monsieur, elle n'est pas un livre de système, non plus qu'un code de la morale. La Bible n'est pas un livre de système avec tant de systèmes et ainsi de suite. Non, monsieur, elle n'est pas un livre de morale. Non, monsieur, pas du tout. Elle n'est pas non plus rien qu'un livre historique, pas plus qu'elle n'est un livre de théologie, car elle est la révélation de Jésus-Christ. Maintenant, si vous aimeriez le lire, vous qui avez leur feuille de papier et qui notez, cela se trouve dans Apocalypse 1 à 3. La Bible est la révélation de Jésus-Christ. Lisons-le donc, puisque nous avons du temps. Je crois que je n'ai pas avec moi beaucoup de notes, donc je me servirai pour prêcher. Si le Seigneur tarde, eh bien, nous essaierons de retirer quelque chose. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Ainsi, la Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Et elle est écrite par des prophètes. Hébreux 1:1, après avoir autrefois à plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, en ce dernier jour, nous parle par son Fils, Jésus-Christ, qui était toutes les prophètes réunis. Jésus était Malachie. Jésus était Jérémie, Ésaïe, Élie. Tout ce qu'il était se trouvait en lui. Et tout ce que vous êtes et tout ce que je suis se trouve en lui. Des paroles, des témoins de la parole. Ce n'est donc pas un livre de système ou un code d'éthique, non plus que ce n'est un livre d'histoire ou de livre de théologie. Pas du tout. Mais c'est une révélation de Jésus-Christ. Dieu lui-même révélé de la parole à la chair. Voilà ce que c'est. La Bible est la parole et Dieu est la chair. Dieu, ou plutôt Dieu est la parole et Jésus est la chair. C'est une révélation. Dieu, la parole, a été manifesté dans la chair humaine et nous a été révélé. Et voilà pourquoi il devient un fils de Dieu. Il est une partie de Dieu. Comprenez-vous? Maintenant, il n'est pas. Le corps fait partie de Dieu à tel point que c'est un fils. Un fils. Les catholiques, eux, disent fils éternel. Toutes les autres églises aussi. D'ailleurs, mais ce terme ne tient pas même pas debout. Voyez-vous? Il ne peut pas être question d'être éternel et ensuite d'être un fils. Parce qu'un fils, c'est quelque chose qui a été engendré. Le mot éternel, il ne peut pas être, il peut être un fils, mais il ne peut pas être un fils éternel. Non, monsieur. Il ne peut pas être un fils éternel. Bon. Mais il est le Fils à tel point que toute la parole qui se trouvait en Jérémie, en Moïse, que toutes ces paroles, comme il l'a dit, elles parlent de moi. Toute cette véritable révélation divine en paroles s'est retrouvée dans un corps humain. Dieu l'a enveloppé de chair. Voilà pourquoi il a été appelé Fils et pourquoi il fait référence au Père. Oh, mais c'est simple comme bonjour. Si vous laissez simplement Dieu déverser cela dans votre pensée, voyez-vous? Dieu révélé dans un corps de chair. Remarquez, révélé de la chair ou de la parole à la chair. Cela se trouve dans Jean 1:14 et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Maintenant, remarquez la Bible. Certains disent, oh, eh bien, elle a fait ceci, elle a fait cela. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Allons donc examiner l'histoire de la Bible pendant une minute, voir pour voir d'où elle est venue. Elle a été écrite par 40 écrivains différents. 40 hommes ont écrit la Bible. Dans l'espace de 1600 ans et à différentes époques, prédisant les événements les plus importants de l'histoire du monde. Et cela, très souvent, des centaines d'années avant qu'il ne se produise. Il n'y a pas une seule erreur tous les 66 livres. Oh là là! Aucun auteur, sauf Dieu lui-même, ne pourrait être aussi précis. Pas un seul mot ne contredit l'autre. Souvenez-vous, la Bible a été écrite à 1600 ans d'intervalle. Depuis Moïse jusqu'à la mort de Jean dans l'île de Patmos, 1600 ans. Et elle a été écrite par 40 auteurs différents. L'un ne connaissait même pas l'autre. Il ne l'avait jamais eu. Et en tant que la parole, certains d'entre eux n'avaient même jamais vu la parole. Mais une fois qu'ils l'ont écrite et qu'ils ont compris qu'ils étaient prophètes et qu'ensuite on a assemblé leurs prophéties, chacune d'elles s'emboîtait l'une dans l'autre. Regardez Pierre qui a annoncé le jour de la Pentecôte. Répentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ en rémission de vos péchés. Paul n'avait jamais entendu parler de cela. Il est allé passer 3 ans en Arabie pour étudier l'Ancien Testament afin de découvrir qui était cette colonne de feu. Puis il avait parlé sur la route, lui disant, « Saul, pourquoi me persécutes-tu? Comment aurait-il pu être dans l'erreur? Il n'a même pas consulté l'Église du tout. » Et 14 ans plus tard, lorsqu'il est allé retrouver Pierre, tous deux prêchaient la même chose, mot à mot. Voilà notre Bible. Que les paroles d'autres hommes faillissent. Ceci, personne ne peut ajouter à ceci. On ajoute plus à la Bible. Non, monsieur, ceci est une révélation complète, c'est tout. Comme par exemple les sept sceaux. Quelqu'un n'arrêtait pas de me dire cela. Le Seigneur va vous parler, frère Branham, lorsque ces sceaux seront révélés. Il nous dira comment nous approcher davantage de Dieu. J'ai dit non, monsieur, impossible, parce que les sept sceaux sur la Bible tenaient les sept mystères cachés. C'était déjà écrit, mais ils ne comprenaient pas ce que c'était. Voyez combien laborieuses ils ont œuvré pour ce baptême au nom de Jésus. Vous voyez? Il n'y était pas du tout. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous voyez. Toutes ces choses comme c'était, c'est ce qu'il y a beaucoup de Jésus. J'ai plusieurs amis ici sur la terre qui s'appellent Jésus, des amis prédicateurs. Ce n'est pas cela. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Aucun auteur sauf Dieu ne pourrait être aussi exact. Maintenant, voyons donc comment cette Bible a été écrite. Disons, par exemple, que nous allions chercher 66 livres de médecine traitant du corps, écrit par 40 écoles de médecine différentes à 160, ou plutôt à 1600 ans d'intervalle. Je me demande bien à quoi nous aboutirons comme continuité. Alors que George Washington, notre président, il y a environ 200 ans, pour une pneumonie, ils ont arraché un ongle d'orteil et l'ont saigné d'un demi-litre. Et si nous prenions allons plus loin et soyons et voyons certaines choses qui aujourd'hui semblent avoir pour tant d'attrait la science. Si nous prenions 40 traités scientifiques différents, écartés sur une période de 1600 ans, je serais curieux de voir à quoi nous aboutirions. Il y a 300 ans, un homme de science français a démontré scientifiquement, en faisant rouler un bâton, que si on arrivait à donner un objet à une vitesse vertigineuse de plus de 30 000 à l'heure, cet objet quitterait la Terre, tomberait de la Terre. Pensez-vous que la science irait jamais se référer à cela? Y a-t-il quelques consommés que ce soit à cela maintenant? Alors qu'il roule dans la rue sur une route ici à 150 000 à l'heure, voyez-vous, mais il y a démontré scientifiquement par la pression de ballon roulant sur le sol qu'à une vitesse de 30 000 à l'heure, tout objet s'élèverait de la Terre et s'en irait, tomberait dans l'espace. Non, il n'y a aucune continuité à cela. Mais pas un seul mot de la Bible ne concorde contredit l'autre. Il n'y a pas un seul prophète qui ait jamais contredit l'autre prophète. Chacun d'eux était parfait, mais et s'ils arrivaient par quelqu'un se présente et met à prophétiser, le vrai prophète se levait et le réprimandait sévèrement. Alors, c'était rendu manifeste, voyez-vous, ainsi la Bible est la parole de Dieu pour tous les véritables croyants. Vous n'auriez pu obtenir aucune exactitude dans ce que les médecins s'entendaient pour déclarer. Même maintenant, on n'arrive pas à obtenir de l'exactitude. Vous ne pouvez pas avoir l'exactitude dans la science d'aujourd'hui. Maintenant, vous savez, il y a quelque temps, ils nous ont dit que lorsque la Bible a déclaré qu'il a vu 4 anges se tenant aux quatre coins de la Terre, ça, que c'était impossible puisque la Terre est ronde. Mais la Bible a bien dit 4 coins. Eh bien, à présent, vous avez vu, il y a 2 semaines, ou plutôt 3 semaines maintenant, le jour où on a publié cet article, ils ont découvert que le monde est effectivement carré. Combien ont vu cela? Certainement, vous voyez. Je l'ai tout copié. J'attends juste que quelqu'un dise quelque chose à ce sujet. Et un jour, ils découvriront qu'ils ne considèrent pas une distance de 180 millions d'années-lumière non plus, mais ils se déplacent en formant un cercle, exactement. Vous découvririez un de ces jours que lorsque vous allez au ciel, nous ne faisons pas simplement vous envoyer vers quelque part ailleurs, mais vous êtes encore là ici, seulement dans une autre dimension. Plus rapide que celle-ci, de la couleur est en train de se passer ici même, à travers cette période, cette pièce. Toute couleur de chemise, de robe, tout ce que vous portez est éternel, c'est enregistré, cela. C'est en train de voyager autour du monde. Chaque fois que vous sourciez, c'est enregistré. Observez la télévision, elle prouve cela. À votre naissance, Dieu met un disque. Il ne fait pas, il met un disque. Mais pendant ce moment, il ne fait pas beaucoup de bruit, vous savez, parce qu'il s'agit d'un bébé. Jusqu'au jour où celui-ci arrive, alors de raison, c'est alors que le bruit commence. La personne se met à dire des choses et à faire des choses dont il doit répondre. Puis, lorsque la vie de cette personne se termine, ce disque ou cette bande magnétique est enlevée et placée dans l'immense bibliothèque de Dieu. Maintenant, comment pouvez-vous vous en tirer au moment de comparaître en jugement alors que ce sera joué à nouveau devant vous? Chacun de vos mouvements, chaque pensée qui aura traversé l'esprit, voyez-vous cela maintenant? Pouvez-vous voir comment Dieu... Je m'étais dit ici, l'autre jour, un homme était venu sur l'estrade, un homme grand, à la tête chauve, un très bel homme, un homme fort, il est sorti, le Seigneur lui avait dit une foule de choses concernant sa famille, et ce qu'il devait faire, il est ensuite sorti, il est allé s'asseoir quelques minutes plus tard, voici que se présente devant moi un autre homme, semblable au premier, mais il avait la tête penchée, je ne pouvais pas distinguer, j'ai regardé là-bas et vers cet homme, ce n'était pas lui, parce que c'était autre chose, et cet homme-là, je n'arrivais pas à le trouver, j'ai regardé tout autour, il n'y avait personne derrière moi, j'ai dit, l'homme était ici là, et de l'autre côté du rideau. Des rideaux, et il s'agissait d'un frère qui frappe cette église, un homme grand, et à la tête chauve, et un bel homme, et il était là comme cela, il était la tête penchée vers l'avant, et priait parce qu'ils étaient à la veille de mourir à cause de troubles gastriques. Il avait l'intention de s'acheter une paire de souliers, son épouse voulait aller lui acheter une paire de souliers neufs. Il lui a dit, non, ce n'est pas nécessaire, parce que je ne vivrai pas assez longtemps pour les porter. Il était sur le point de mourir, et alors, il était assis là, vous voyez, dans cette dimension. Alléluia! Dieu est simplement intervenu, il a dit, il est assis là, exactement dans cette position. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, remarquez, il n'y a aucune erreur dans les Écritures. Jésus, la parole de Dieu, connaît les pensées qui se trouvent dans le cœur. La parole de Dieu est plus puissante et plus tranchante, Hébreux 4:12. La parole de Dieu est plus tranchante, plus puissante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne même les pensées et les intentions de l'esprit. Voyez-vous, elle descend très profondément à l'intérieur de la pensée et va chercher discerner. Que veut dire discerner? Faire connaître, révéler. Et c'est ce que fait la parole de Dieu aujourd'hui, nous disant l'Église catholique, la parole de Dieu, les baptistes, les pentecôtistes, les pentecôtistes, c'est tabarnaque, c'est faux. La parole, c'est la révélation. Dieu révélé par la parole, non pas le moyen d'avoir la moindre continuité parmi les médecins, parmi les scientifiques, parmi les... ces différentes personnes. Si seulement Einstein avait possédé l'application spirituelle comme il possédait l'application physique, tandis qu'il a étudié les lois de la lumière et ainsi de suite, il aurait pu nous dire quelque chose. Lorsque j'ai entendu son message sur ce grand centre qui se trouve quelque part dans les cieux et qu'il dit que si jamais on entrait en contact avec ce centre, on pourrait créer des terres. Faire n'importe quoi. La puissance serait illimitée, voyez-vous. Il avait vu cela. Vous voyez ces petites poches qui traversent les airs et qu'ils appellent des soucoupes, ainsi de suite, les gens sont si... Oh, il vaut mieux laisser cela de côté. Avez-vous entendu parler de ces gens qui sont portés disparus et qu'on dit qu'ils n'ont pas plus de nouvelles, ils sont là et puis ils ne sont plus? C'est comme ça que ça passera dans le vent. L'une descendra tout d'un coup. Et ce corps terrestre revêtira un corps céleste et il n'en sera plus la moindre trace. La transformera, se fera en un instant, tandis que cela fendra l'espace et amènera à la maison. Nous voyons tout ceci se produire maintenant et le Pentagone qui s'interroge au sujet de ces lumières, ces lumières mystiques et de toutes ces choses qu'il voit dans le ciel. Et vous avez vu qu'il n'y avait, il y en avait une, c'était dans le journal de Jeffersonville cette semaine et ainsi de suite. Ils avaient vu une lumière mystique, ils disaient, oh, ils ne savent pas ce que c'est, mais écoutez, ces petits enfants, cela va venir vous prendre un de ces jours, voyez-vous, ne vous en faites pas. Rappelez-vous, Jésus a dit ce qui arriva du temps de Sodome. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant que Sodome? Dieu est descendu avec des anges, ils ont investigué en vue du jugement. Il a dit, j'ai entendu ce cri qui est tellement rempli de péché, tellement grand. Aussi suis-je descendu pour voir si tout cela est l'entière vérité ou pas. Est-ce que juste observer celui qui était... la personne principale et qui est demeurée avec Abraham, il pouvait discerner les pensées dans le cœur de Sarah. Il était derrière lui. Maintenant, regardez un peu autour de vous. Vous pouvez remarquer, voyez-vous, surveillez ce que c'est en train de faire. C'est la même chose aujourd'hui. C'est une investigation en vue du jugement. Quand nous au bout d'un moment, l'Église pourra tenir sa position et que chaque semence aura été amenée à ce point-là, alors ce sera le départ. On ne saura pas ce qui leur est arrivé. L'un s'en ira dans une direction, voyez-vous, l'un s'en ira chez le pasteur et l'un s'en ira ici ou bien là. Et puis tout à coup, il n'en sera plus, car Dieu prit Enoch, et qui était le type, il ne fut pas trouvé, descendu pour investiguer la continuité, comment l'enlèvement d'Enoch, un type d'Israël, transporté dans l'arche. Tellement parfaite. La parole de Dieu est tellement parfaite. Et même l'Ancien et le Nouveau Testament sont deux moitiés et un tout. Tout à fait. L'Ancien Testament est une moitié et le Nouveau Testament est une moitié. Mettez-les ensemble et vous obtenez la révélation complète de Jésus-Christ. Voilà le prophète qui parle et le voici en personne. Voyez-vous, deux moitiés et un tout. Or, nous ne voulons pas prendre trop de temps. N'oubliez pas ceci, l'Ancien Testament n'est pas complet sans le Nouveau, et le Nouveau ne pouvait pas être complet sans l'Ancien. Voilà pourquoi j'ai dit deux moitiés, un tout, car le prophète sait, il viendra, ils lui feront ceci, ils lui feront ceci. Mais voici maintenant, il est venu, ils lui ont fait ceci. J'ai prêché là-dessus l'autre soir. Maintenant, pour étudier l'Écriture, Paul a dit à Timothée de l'étudier dispensant droitement de la parole de Dieu qui est la vérité. Il y a trois règles indispensables à respecter par rapport à l'Écriture. En étudiant la parole de Dieu, il y a trois choses que vous ne devez pas faire. Étudions donc cela pendant une dizaine de minutes. Trois choses que vous ne devez pas faire. Et où que vous soyez d'un bout à l'autre du pays, assurez-vous bien de les noter. Dans votre pensée, si vous n'avez pas de crayon, vous ne devez pas faire ces choses. Nous vous disons constamment ce que vous devez faire. Maintenant, je vais vous dire ce que vous ne devez pas faire. Vous ne devez pas mal interpréter la parole. Vous dites, bien, je crois que cela veut dire ceci. Cela veut dire exactement ce que l'a dit. Elle n'a pas besoin d'interprète. Et vous ne devez pas mal placer la parole. Et vous ne devez pas disloquer la parole. Et s'il nous arrivait de faire l'une ou l'autre de ces choses, cela jetterait la confusion et le chaos dans toute la Bible. Remarquez, de mal interpréter Jésus dans sa forme de Dieu dans un homme vous amènerait à faire de lui, vous feriez de lui un Dieu sur trois. De mal interpréter Jésus-Christ comme étant la parole vous amènerait à faire de lui un Dieu sur trois, ou vous feriez de lui une deuxième personne d'une divinité. Et en faisant cela, toute l'Écriture deviendrait un vrai fouillis. Vous n'arriveriez jamais à rien. Elle ne doit donc pas être mal interprétée. Et si en parlant d'une certaine chose, vous en faites l'interprétation et vous l'appliquez à une autre époque, ou bien si vous dites que cela s'appliquait à une autre époque, encore là, vous en faites une fausse interprétation. Si quelqu'un interprétait mal Jésus-Christ dans la Bible comme n'étant pas Dieu lui-même, faisant de lui une deuxième personne, ou bien un Dieu sur trois, cela bouleverserait chaque parole de la Bible entière. Cela violerait le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Très bien. Cela ferait de toute la race des chrétiens une bande d'adorateurs païens adorant trois dieux différents. Voyez-vous quelle sorte de Bible vous auriez, là? Cela ferait alors de nous ce que les Juifs disent que nous sommes quand ils demandent, mais lequel de ces dieux est votre Dieu? Voyez-vous? Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas mal interpréter la Bible, car Jésus lui-même est l'interprétation de la Bible. Lorsqu'il est rendu manifeste dans l'âge où la portion de son corps est rendue manifeste, si c'est l'âge de la main, il faut que ce soit une main. Si ce n'est pas, ça ne peut être l'âge de la tête, si c'est l'âge de la voix, eh bien, ça ne peut pas être l'âge du pied, voyez-vous. Et nous sommes présentement à l'âge de l'œil. Et maintenant, ce qui vient ensuite, c'est lui-même qui doit venir. La vue prophétique. Vous voyez un âge succédant à l'autre? Nous avons commencé par le fondement, le premier âge de l'Église, où la semence est allée en terre, la semence complète. Elle est apparue premièrement par les pieds, Luther, ensuite à travers Wesley, ensuite dans les pentecôtistes, les langues et les lèvres, voyez-vous? Maintenant, dans les yeux, prophétique, Malachi 4 et ainsi de suite. Et à présent, il ne reste plus rien à venir, sauf lui, lui-même, qui doit venir se placer à l'intérieur de cela, parce que c'est la dernière chose. Ce qui suit, c'est l'intelligence, et nous ne possédons aucune intelligence en propre, c'est la sienne. Voyez-vous, nous ne possédons aucune vue en propre. Comment un homme peut-il prévoir ces choses? Il ne le peut pas, c'est Dieu lui-même qui le fait. Voyez-vous, cela est arrivé à un point, il a gouverné le corps tout le long du chemin, le corps de Christ au complet est alors révélé sous forme d'une épouse qui a été prise de son corps, comme Adam l'a fait au commencement, ou plutôt comme cela d'Adam l'a été au commencement. Oui, Dieu, cela installerait la confusion dans toute la Bible. Il y aurait le premier commandement, il ferait un Dieu païen sur toi. Cela gâcherait tout cela que la Bible est censé représenter aussi. Ne devez-vous pas mal interpréter la Bible? Maintenant, ça, c'est juste une chose. Une fois que chaque écriture de la Bible possède la même application, vous devez la placer à sa place. En la plaçant mal, vous pourriez faire de lui Dieu dans un âge et dans l'âge suivant, vous le feriez historique. En la plaçant mal, vous ne devez donc pas mal placer l'écriture. Il est Dieu tout le temps. Si vous faisiez de lui aujourd'hui un Dieu historique, ce qu'il était autrefois et qu'il ne soit pas le même aujourd'hui, que feriez-vous alors de Hébreux 13:8? Voyez-vous, il est le même hier aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, vous voyez, donc, ce que cela ferait, ce que cela a effectivement fait, c'est déjà fait de mal placer les Écritures, lui fait nier sa propre parole. Disloquer les Écritures, vous ferez peut-être assembler son corps incorrectement, placer le pied où devrait être la tête, ou quelque chose comme ça. C'est pareil, autrement dit, vous pourriez avoir Jésus enseignant le message de Moïse. Vous pourriez avoir, ou même Wesley enseignant l'âge de Luther. Vous pourriez avoir notre âge présent enseignant la Pentecôte, le message pentecôtiste. Vous voyez quel fouillis il y aurait là-dedans? Le pentecôtiste a déjà montré ses couleurs, Luther a déjà montré les siennes, pris le sentier de la dénomination, aussitôt ce fut la mort, l'âge a sonné, voilà. Remarquez, aussitôt organisé, c'était la mort. Maintenant, voyez si ce n'est pas vrai. Remontez les pages de l'histoire, chaque fois que cela s'organisait, tout de suite, c'était la mort, c'était tout à fait terminé. Cela devenait un adorateur de Dieu. De ce monde, et prenait le sentier des organisations, des dénominations, des illusions, une bande de riquets se sont infiltrés, ils ont mis leur propre objection, ou plutôt ils ont injecté leur propre pensée. Et qu'est-ce que cela a donné? C'est devenu un gâchis, cela va finalement aboutir au Dieu de ce monde, tandis qu'ils mettront Satan lui-même sur le trône, pensant avoir en lui un grand leader mondial qui leur apportera la paix. Alors je vous l'ai dit l'autre jour, et je le répète, jusqu'à la civilisation elle-même aujourd'hui, qui va complètement à l'encontre de Dieu. La civilisation va à l'encontre de Dieu. L'éducation est à des millions de kilomètres de lui. La science est à des millions de kilomètres. La science et l'éducation essaient de réfuter Dieu. Voyez-vous? Par le moyen de séminaires théologiques, d'écoles, de salons et de la science et ainsi de suite, ils ont eu leur secousse. Que dire de la vision de l'autre soir, l'homme qui criait à ces hommes de science tandis qu'ils étaient là en train de verser cette substance comme cela et qu'ils sont simplement retournés, ont regardé et ont continué. Il y aura encore une chevauchée. Remarquez, oh, ces trois règles indispensables s'imposent. Oh, vous ne pouvez pas. Jésus n'est pas venu prêcher le message de Noé. Il n'est pas venu prêchant le message de Moïse, ou bien Moïse n'est pas venu prêchant. Voyez-vous, ne placez pas mal l'Écriture. Il faut que ce soit le temps. Maintenant, vous ne pouvez pas appliquer quand ce grand homme John Wesley est venu, plutôt ce grand homme Luther, quand Luther a apparu avec son message de justification. Maintenant, quand Luther était un grand homme, il a appelé l'Église à sortir des ténèbres. Il a posé la justification par la foi. Et à ce moment-là, ils ont bâti une organisation là-dessus, et ce fut la mort. La vie comme elle l'a fait dans le cas de la tige de blé, est passé de la tise directement dans les grettes. À l'âge de Wesley, les lutins sont sortis d'autres feuilles qui sont mortes aussi, à savoir Zwingli et Calvin et tous les autres qui sont apparus lors de cette grande réforme. Voilà qui est venu ensuite Wesley, un autre âge où cela s'est épanoui pour former les Grettes, Wesley et Atterbury, et tout cela, et John et son frère, et tous ces de grands hommes de Dieu, munis d'un message qui a balayé le pays. Ils l'ont organisé ce filament, et ensuite, d'après l'apparence, on aurait vraiment dit que c'était le moment où le grain allait être produit. Qu'est-ce qu'on a découvert? C'était la balle, la Pentecôte. Mais derrière tout cela a pointé un petit bourgeon. Et vous remarquez qu'habituellement, je pense que Luther était sur le terrain depuis environ 3 ou 4 ans quand l'Église luthérienne a été organisée. Wesley était sur le terrain depuis seulement un petit moment quand elle a été organisée. Nous avons eu à Tucson une émission qui montrait comment l'église de Wesley ou l'église méthodiste s'est formée après être venus ici en Amérique. Beaucoup d'entre eux étaient rentrés en disant qu'ils allaient rédiger des statuts et ainsi de suite depuis l'Angleterre afin d'amener cela ici. Tout cela avait été adapté pour l'écran. J'ai tout de suite vu ce qui s'était passé. C'est là qu'elle est morte. Eh bien, voici ceux qui sont venus, les pancotistes, avec ceux des jours du début, ceux qui poussaient des cris, qui avaient le don de parler en langue, qui ont commencé à parler en langue et qui ont ensuite appelé cela l'évidence du Saint-Esprit. Puis ils se sont organisés. L'un disait qu'ils allaient faire ceci et l'autre cela. Ils ont eu controverse sur controverse. Qu'est-ce que cela a fait? Cela a fait que chacune de ces feuilles s'est dépliée, comme ce fut le cas de la tige et comme ce fut le cas de la grette. Ils ont eu les unitaires, les binitaires, les trinitaires, ceux de l'Église et de Dieu. Et tout le reste, ils sont déplier. Mais maintenant, selon la nature qui est l'exemple parfait, aucune éducation n'arriverait à modifier quoi que ce soit à ceci. Il n'y a pas longtemps, un petit bébé est né chez une famille de mes amis au Kentucky et la mère était là tandis qu'elle préparait notre dîner, aidait l'autre sœur à faire le dîner pour tout un groupe d'hommes. Nous étions là, nous étions allés chasser et le bébé s'est mis à pleurer. J'étais en train de parler. Je pense que la mère était un peu mal à l'aise à cause de cela. Elle se dépêchait donc de prendre le bébé et se mettre à l'allaiter le petit. J'ai dit, vous savez, c'est tout naturel, voyez-vous. Vous ne pouvez pas, on n'aurait jamais trouvé de meilleur moyen pour un bébé d'obtenir ce qu'il veut que de pleurer pour l'avoir. Maintenant, vous aurez beau lui donner un livre d'éthique la soir-là et lui dire, je veux t'enseigner la théologie, fiston. Ne te mets surtout pas à hurler ici comme les autres gamins. Toi, tu es différent. Alors, quand tu veux qu'on te nourrisse, tu n'as qu'à agiter cette petite clochette. Ça ne marchera pas. Rien à faire. Ça ne marchera pas. Et si, lorsque vous observez la nature maintenant, nous voyons qu'à chaque âge, et quand nous avons bien défini que nous sommes dans le dernier âge. La balle s'est éloignée depuis 15 ans, presque 20 ans maintenant. Le message balaie les nations, une après l'autre. Et ce matin, nous sommes reliés d'un bout à l'autre de ce pays, voyez-vous? Et pas d'organisation. Il ne peut pas s'organiser. Il n'y a jamais rien eu de semblable. Il n'y en aura plus jamais rien de semblable. Voyez-vous ce qui se passe par rapport au message aujourd'hui? C'est ceux qui le reçoivent dans leur cœur doivent demeurer dans la présence du Fils afin de mûrir. Voyez-vous? Vous pouvez prendre le message et ensuite laisser le Fils vous cuire et sortir de vous toute la verdeur. Voyez-vous? Faire de vous des chrétiens matures. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu va bientôt venir prendre son Église. Et il nous faut avoir ce type de chrétiens-là pour qu'ils viennent les prendre. Le blé doit être mûr, doit mûrir. Très bien. Ces trois règles indispensables s'imposent. Il ne faut pas mal interpréter ou l'utiliser mal interpréter ou le disloquer. Elle doit être gardée exactement comme Dieu a dit qu'elle l'était. Aux yeux du monde, c'est un livre de mystère. Les gens croient que ce n'est qu'un livre mystérieux. Je parlais une fois à quelqu'un de très célèbre dans cette ville, un homme bien connu dans le monde du christianisme. Il a dit, un soir, j'ai essayé de lire le livre de l'Apocalypse. Jean a dû prendre une grosse collation de piment fort. Il a fait un cauchemar. Vous voyez, un livre de mystère. Alors que vous, le véritable croyant, c'est la révélation de Dieu révélée dans l'âge dans lequel nous vivons. Il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Jésus a dit cela. Et aussi, la parole est la semence qu'un homme a semée. Nous savons que cela est vrai. Elle est Dieu sous forme de parole et elle ne peut être interprétée que par lui. La pensée humaine est incapable d'interpréter la pensée de Dieu. Comment la petite, une petite pensée humaine limitée peut-elle interpréter la pensée infinie alors que nous n'arrivons même pas à interpréter notre pensée l'un l'autre? Remarquez, il est le seul à pouvoir l'interpréter. Il en est, donne l'interprétation à qui il veut. N'a pas été dit les mortels d'autrefois alors qu'ils parcouraient la terre à plusieurs reprises de plusieurs manières. Mais Dieu, à plusieurs reprises de plusieurs manières, s'est révélé à ses prophètes. Voyez-vous? Et remarquez à qui il veut le révéler. Il a conçu cela de façon qu'il puisse, dans les Écritures, se cacher du théologien le plus intelligent qui soit. Oh là là! Il peut simplement se cacher, être là, bien installé dans l'Écriture, et vous pourrez regarder toute la journée sans jamais le voir, regarder toute votre vie sans jamais le voir. Il peut simplement se cacher tandis qu'il est bien installé là. S'il vous plaît, vous toutes, partout, que ceci nous pénètre bien. Dieu dans la parole peut se cacher si bien à l'intérieur de sa parole que pas un seul théologien, pas une seule école au monde n'arrivera jamais à le trouver. Et pourtant, il est là, bien installé. Vous dites, c'est vrai, frère Branham, pensez aux pharisiens, aux sadducéens, pensez à chaque âge. Il l'a fait. Certainement, il l'a fait dans chaque âge. Maintenant, nous pouvons vérifier cela. Pensons au jour de Noé. Un âge de gens intelligents, d'intellectuels, et comment il s'est caché dans sa parole. Promise au jour de Moïse, comme il s'est caché au jour d'Élie, comme il s'est caché au jour de Jésus, comme il s'est caché, il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne lui n'a point connu, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Voyez-vous, il se cache des hommes les plus intelligents de la terre. Vous dites, mais ceci est le docteur Saint-Père un tel. Peu importe qui il est, Dieu se cache de lui. Et il le révèle aux bébés, lesquels voudront bien apprendre, voyez-vous? Les bébés de Dieu, la semence prédestinée. Pensez-y, le Dieu puissant, bien installé dans sa, dans ses paroles, paroles aveuglantes, les gens intelligents et instruits de cet âge présent, ils ne le voient pas. Ils pensent que ce n'est que du fanatisme. Regardez-le, se tenant à se cacher dans les pentecôtistes, des baptistes, des méthodistes, des presbytériens. Il se révèle d'une façon manifeste, publiquement, montrant toutes sortes de choses, jusqu'à mettre cela dans les journaux et ainsi de suite. Et malgré tout, il ne voit pas. Oh, notre Dieu, comme il est grand, il se révèle à qui il veut. Oh, dites-vous, frère Jones ou frère Hotel, ça c'est un grand homme, il le verra. Oh non, il le révèle à qui il veut. Vous dites, mais mon épouse ne le voit pas. Et elle est chrétienne. Il se révèle à qui il veut, voyez-vous. Mais mon pasteur est un grand homme, c'est juste, mais il se révèle à qui il veut. Maintenant, comparez ce qu'il est. Il a été révélé avec ce qui est en train de se passer. Alors, vous pourrez très bien comprendre. Nous remarquons donc que cela en fait un livre de Dieu et non pas un livre d'homme. Si c'était de l'homme, voyons comment il s'exprimerait. Voyez comme il met à nu le péché des hommes qui l'ont écrit. Remarquez les hommes qui ont vécu au jour de la Bible. Prenons par exemple Abraham. Il est appelé le père des croyants. Remarquez comment, pensez-vous qu'Abraham aurait écrit ce livre sur lui-même, écrivant sa propre lâcheté? Comment pensez-vous qu'il aurait pu écrire, avoir menti au roi ce matin-là, en disant que c'était sa sœur, alors que c'était sa femme? Écrit-il au sujet des lâchetés qu'il a commises? Certainement qu'il n'aurait jamais fait cela. Et si on prenait Jacob et sa tromperie, ce petit trompeur qui était Jacob, un homme, un hébreu, écrivant au sujet de son frère hébreu, de qui Israël tout entier a tiré son nom. Oserait-il mettre par écrit la tromperie du père? Même de toute la nation, de Jacob, sont venus les patriarches, de patriarches sont venus les tribus. Et la première pierre de tout cela, la Bible, la dénonce comme un trompeur. N'est-ce pas vrai? Pensez-vous que l'homme aurait écrit cela? Oh non! Et que dire d'un homme qui écrirait au sujet du plus grand roi que la terre ait porté un roi couronné, David, en racontant que celui-ci avait commis un adultère? Pensez-vous que ces Juifs auraient écrit au sujet de leur roi le plus noble comme étant un adultère? Oh, l'histoire elle-même, elle raconte que George Washington n'a jamais dit un mensonge et des choses comme, nous appelons ça l'histoire, mais il s'agit ici d'un homme dans d'une Bible qui appelle David un adultère et il était le roi d'Israël, un adultère qui était le fils de Jésus. La pierre fêtière même allait être le fils de David et selon son père, selon la chair, était un adultère. Jamais les Juifs n'auraient écrit un livre pareil. Un homme écrirait-il cela à son propre sujet? Certainement pas. Et c'est fière nation d'Israël. Vous savez comme ils étaient fiers. Cette fière nation d'Israël aurait-il eu l'idée d'écrire sur leur propre idolâtrie, d'écrire sur leur rébellion contre leur Dieu, de faire connaître leurs actions déloyales et crapuleuses en les écrivant dans les livres? Ils auraient certainement plutôt caché cela. Ils n'auraient montré que les bonnes choses. Mais cette Bible parle à la fois de ce qui est bien et de ce qui est mal. Tout le monde sait que les Juifs n'auraient jamais écrit un tel livre, décrivant leurs propres impuretés, leurs idolâtries, leurs échecs et tout. Jamais ils n'auraient écrit cela. Oh non! Mais alors, qui l'a écrit? La Bible dit dans Hébreux 1:1, Dieu à plusieurs reprises et de plusieurs manières a parlé au Père par les prophètes. Ce n'est donc pas les prophètes. Ce n'était pas qu'un quelqu'un de mortel. Dieu, non pas les prophètes à plusieurs reprises, mais Dieu à plusieurs reprises et de plusieurs manières a parlé au Père par les prophètes. J'ai noté une histoire ici. Je ne sais pas ce que c'était. Je ne peux pas m'y référer. Habituellement, lorsque j'ai fait référence à ces choses, je considère une écriture. Je vais donc prendre une minute pour aller vérifier cela. Si vous voulez bien m'excuser, cela est dans 2 Timothée 3:16. Je pensais que je m'en souviendrais, mais je suis désolé. Je vais juste m'arrêter une minute pour voir ce que c'est. Dieu, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a parlé au Père par les prophètes. Maintenant, 2 Timothée 3, 3:16. Voyons ce qu'il est dit dans 3:16. Toute écriture, ah oui, est inspirée de prophètes. Non, inspirée de quoi? Dieu est utile pour enseigner et pour convaincre et pour corriger et pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Très bien. Tout bien. Toute écriture est écrite par inspiration. Jésus, ici sur terre, a dit que les cieux et la terre passeraient, mais sa parole pas. Il a dit que toute écriture doit s'accomplir. Ainsi donc, le livre n'est pas un livre d'écrit d'homme, c'est un livre écrit de Dieu. Or, nous savons que Dieu a choisi par prédestination son Église, son lieu, ses prophètes et tous les détails. Par préscience, il a prédestiné son prophète et quand venait l'époque, il faisait en sorte que son prophète arrive en même temps et l'inspirait tandis qu'il écrivait la Bible par lui. Maintenant, Dieu a écrit la Bible en se servant uniquement du prophète parce que c'est sa façon de faire. Alors, vous voyez, ce n'est pas la parole. Alors, vous voyez, c'est effectivement la parole de Dieu et non pas la parole de l'homme. Dieu est une personne. Dieu peut prendre la parole. Dieu peut parler. Dieu peut écrire. Il n'est pas obligé de le faire de cette façon-là. Mais c'est ainsi qu'il a choisi de le faire. Il n'était pas obligé de le faire de cette façon, mais il a choisi de le faire de cette façon. Maintenant, vous dites, Dieu a écrit avec son doigt, avec son propre doigt majestueux, les 10 commandements. Dieu pourrait donc l'écrire lui-même, s'il le voulait. Voyez-vous, mais il a choisi de l'écrire par les prophètes, voyez-vous, parce que c'était ses attributs, sa parole. Il s'exprimait à travers eux, faisant de chacun d'eux une partie de lui, voyez-vous. Il pourrait écrire avec son doigt, il aurait pris son doigt pour écrire sur la muraille de Babylone. Tu as été pesé dans la balance et trouvé léger. Il a écrit avec son propre doigt. Dieu peut parler, croyez-vous que Dieu peut parler? Il a parlé à Moïse sur la montagne, dans un buisson ardent. Croyez-vous cela? Oui, monsieur, il a parlé à Jean sous forme de colombe. Croyez-vous cela? Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Il a parlé de Jésus sur la montagne et de la transfiguration devant Pierre, Jacques et Jean. Il peut parler. Il n'est pas muet. Dieu peut parler. Il a donc parlé à Jésus sur la montagne de la Transfiguration. Il a parlé à Jésus devant toute une foule de personnes. Quand les gens ont dit que c'était un tonnerre, mais c'était Dieu qui parlait à Jésus. Et la presque totalité de Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est Jésus qui parle. Il est Dieu. Donc Dieu peut parler. Il s'est servi de ses propres doigts pour écrire sur le sable un jour. Il a parlé, il a prêché, il a prophétisé avec ses propres lèvres. Dieu l'a fait quand il était fait chair et habité parmi nous. Dieu manifesté dans la chair. S'il peut écrire, parler, et ne peut-il pas aussi dire à d'autres ce qu'il doit faire? Assurément qu'il le peut. Il peut leur parler avec une voix humaine. Il peut écrire et leur montrer quoi faire. Et il l'a fait déjà. Il l'a déjà fait. Dieu, donc, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, a parlé au Père et par les prophètes. Il a dit dans cet écrit que jamais un seul iota ou un seul trait de lettre ne passerait jusqu'à ce que ce soit accompli. Et à ce moment-là, c'est manifesté. Alors, cela passera parce que c'est manifesté et ne peut être donc plus passé. Mais c'est simplement la parole elle-même qui est faite chair. Iota veut dire petit. Petit mot, très veut dire petite marque. Pas même une seule ponctuation, une seule expression. Rien de la parole de Dieu ne faillira jamais. Cela ne peut pas faillir parce que c'est Dieu. Dieu manifesté sous forme de chair humaine. C'est Dieu lui-même sous forme écrite, sous forme prophète. Un prophète manifesté dans la chair. Voilà la raison pour laquelle Jésus pouvait dire, ceux qui ont parlé, vous les appelez Dieu. Ceux qui ont parlé par la parole de Dieu, il a dit, ils étaient des dieux, ces prophètes, lorsqu'ils étaient loin de l'Esprit de Dieu et qu'ils apportaient exactement la parole de Dieu, étaient alors des dieux. C'était la parole de Dieu qui parlait à travers eux. Ils ne pouvaient pas interpréter que lorsque l'auteur leur permettait de donner l'interprétation. Maintenant, si vous voulez voir où cela se trouve, c'est dans 2 Pierre 1 et les versets 20 et 21. Très bien. C'est l'endroit où il est dit que Dieu, qui ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, qui fait lui-même son interprétation. Dieu parle, interprète lui-même et ensuite il le révèle à qui il veut et il se cache de tous les autres. Il n'est pas obligé de le révéler à qui que ce soit, à moins qu'il ne le veuille. Il a exprimé toute la chose dans l'Écriture. Par conséquent, toute la chose est déjà connue. C'est simplement, il est simplement là, bien installé. Regardez, tout cela est en train de se produire, voyant le corps se former et revenir à la forme de son épouse à nouveau. Très bien. Les croyants croient cela, tout comme Abraham qui appelait les choses qui étaient contraires, comme si elles n'existaient pas. Cette parole discerne aussi les secrets des cœurs. Hébreux 4, 12, elle discerne les secrets du cœur. Les prophètes ne comprenaient pas toujours ce qu'ils étaient en train d'écrire ou ce qu'ils étaient en train de dire. Sinon, jamais ils ne l'auraient dit s'ils avaient pu le comprendre, voyez-vous. Mais la Bible dit qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Poussés. Lorsque la Bible vous pousse, vous bougez. L'homme, Dieu à plusieurs reprises et de plusieurs manières a parlé aux prophètes, eux qui étaient poussés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans tous les âges, les gens qui étaient spirituels consultaient les prophètes au sujet de l'époque et de qui allait arriver. L'écrivain prophète doit être en communion constante avec l'auteur. Voyez-vous, il doit continuellement vivre en présence de l'auteur afin de savoir ce que sera le livre. Voyez-vous, l'écrivain prophète tenait la plume, étant toujours prêt en communion constante avec l'auteur qui était Dieu, prêt à écrire sans ménager tout ce qui lui disait de noter. Voyez-vous, cela montre quel genre de vie il devait, une vie à part, isolée de tous ses frères. Maintenant, voilà pourquoi le prophète fixait continuellement son attention sur ce que Dieu avait dit. Non, ce que les hommes pensaient, ce que l'époque pensait, ce que l'Église pensait, ce que les royaumes pensaient, mais ce que Dieu pensait ne faisait que traduire les pensées de Dieu en paroles, parce qu'une parole est une pensée qui a été exprimée. Alors, vous saisissez à présent, la parole est une pensée exprimée. Le prophète attendait donc la pensée de Dieu, et quand Dieu lui révèle ses pensées, il exprimait cela en paroles. Ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous, non pas ainsi dit le prophète, mais ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous très bien. Voilà pourquoi ils ont affronté des royaumes et des âges de l'Église, et ce qui, de leur temps, entraînait la peine de mort. Qui oserait se présenter devant le roi et lui dire, ainsi dit le Seigneur, telle et telle chose va arriver? On vous aurait fait couper la tête, l'Église aurait tout fait de vous mettre à mort. Mais ces prophètes étaient pleins d'assurance. Pourquoi? Parce qu'ils étaient poussés par cet esprit, voyez-vous. Et ce qu'il leur donnait de l'assurance, ils ont écrit la parole infaillible de Dieu. Beaucoup ont essayé d'imiter ces prophètes, par exemple, des prophètes, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Un gâchis, c'est tout. Ils ne pouvaient pas y arriver parce que Dieu avait sélectionné l'homme pour l'époque, sélectionné le message, sélectionné jusqu'à la nature de l'homme et ce que ferait de l'effet à cette époque et ce qu'il pourrait faire comprendre et comment il pourrait, avec la nature de cet homme-là en particulier, pourrait aveugler les yeux d'autres personnes, les paroles que cet homme prononcerait, son comportement aveuglerait, les uns ouvraient les yeux, les autres, voyez-vous, ils revêtaient cet homme du type du vêtement qu'ils avaient, de la nature, de l'ambition et tout. Ils étaient exactement comme ils devaient être, parfaitement sélectionnés pour les gens, bien précis qu'ils allait appeler pour cet âge, bien précis, tandis que les autres se tenaient là et le regardaient en disant, eh bien, moi, je ne peux pas, je ne, vous voyez, ils étaient aveugles. Jésus est venu de la même façon, revêtu, le Dieu immortel, revêtu de chair humaine, et parce qu'il était né dans une crèche, dans une étable pleine de fumier, sous un endroit où reposer sa tête, né, semble-t-il, avec un nom illégitime collé sur lui, voyez-vous. Toutes ces choses qu'il était et le fait qu'il soit le fils de charpentier, qu'il soit plus ou moins sans instruction selon le monde, selon la sagesse de ce monde, il n'avait rien à faire avec cela, il n'a absolument rien à faire avec la civilisation, l'éducation, quoi que ce soit de ce monde, car il est Dieu. Il y aurait incompatibilité. Il y avait essayé d'aller à un séminaire quelque part et d'apprendre à faire comme le faisaient les églises du monde, cela n'aurait pas dû du tout conforme à sa compréhension, car il était Dieu. Donc l'éducation, l'instruction, les séminaires, ainsi de suite, sont absolument contraires à la volonté de Dieu. Tout le système d'éducation est contraire à Dieu. Tout ce qu'on y enseigne éloigne de Dieu tout le temps. Lorsque j'entends un homme dire qu'il est docteur en philosophie, LLQ, quant à moi, cela veut simplement dire que c'est encore plus éloigné de Dieu, voyez-vous? Son instruction l'a simplement éloigné encore plus de ce quoi il était vraiment appelé. C'est juste, remarquez, bien maintenant, il était poussé par le Saint-Esprit. Et cela ne veut pas dire qu'un homme instruit ne peut pas venir. Regardez Paul. Je pense que de son temps, il n'avait pas un homme plus intelligent que Paul, qui était Saul de Tarse. Il avait été l'élève de Gamaliel, qui était l'un des plus grands docteurs de l'époque, un homme hébreu important, strict et de la dénomination parisienne. Et Paul a été son élève. Il connaissait toute la religion juive, mais lorsqu'il est venu vers l'Église, il a dit, je ne suis jamais venu chez vous avec une instruction selon l'homme, et ainsi de suite, sinon vous auriez mis votre confiance en cela, mais je suis venu avec vous avec la puissance et la manifestation de cet esprit afin que votre foi soit en Dieu. Voilà, c'est juste. Beaucoup ont tenté d'imiter ces gens, mais ils ont embrouillé toute la chose, exactement comme ils le font aujourd'hui. L'un d'eux est apparu avant le temps de Jésus et a égaré 400 personnes. Vous avez ce que l'on lit dans les Écritures au sujet de ces choses, au sujet d'essayer de le faire avant que le moment soit venu. Et certains d'entre eux ont essayé de l'imiter, celui-ci, celui-là et ces autres. Il a dit que dans les derniers jours, il élèverait de faux Christ dans les derniers jours et de faux prophètes qui feraient des prodiges et des miracles. Nous avons tout cela, voyez-vous, mais cela n'élimine pas la vérité. Cela ne fait que la faire briller avec plus d'éclat parce que nous possédons un Christ véritable, pas un faux. Maintenant, nous voyons que dans Dieu, que Dieu envoyait ses prophètes, c'était son moyen d'apporter sa parole au peuple par les lèvres de ses prophètes. Et remarquez, vous savez que Moïse a dit, si vous désirez le lire, c'est dans Exode chapitre 4, le verset 10 et 12. Moïse a dit que Dieu lui avait parlé. Dieu a parlé à un homme de bouche à oreille. Il a dit, j'ai la bouche embarrassée, disait Moïse, je ne suffirai pas à la tâche. Je ne peux pas y aller. Il a dit, qui a donné à l'homme de parler ou qui lui a donné d'être muet? Qui lui a donné de voir, qui lui a donné d'entendre, n'est-ce pas Moïse? Moi, n'est-ce pas moi, l'Éternel, je serai avec ta bouche, voyez? Et Jérémie a dit,
yes, sir. So you see, the Bible is God's word.
Et Jérémie a dit, si vous désirez le lire, c'est dans Jérémie 1:6. Jérémie a dit, Dieu a mis les paroles dans ma bouche, voyez-vous. Il a parlé à la bouche et les oreilles avec un prophète et il a parlé à travers l'autre prophète, tandis que celui-ci n'avait absolument aucun contrôle. Il parlait par ses lèvres et il n'avait pas moyen de faire connaître sa parole, vous savez. Oui, monsieur. Donc, vous voyez la Bible, la parole de Dieu et non pas la parole de l'homme, Moïse. Et a dit, Dieu m'a parlé avec une voix et je l'ai entendu, j'ai noté ce qu'il a dit. Jérémie a dit, je ne pouvais pas parler du tout. Tout à coup, mes lèvres se sont mises à parler. J'étais là en train d'écrire et Dieu a parlé par ses lèvres et cela s'est accompli. Pour Daniel, Isaïe et ainsi de suite, pour tous ces prophètes, là, ce fut à peu près pareil. Vous savez, rien que de l'Ancien Testament, à plus de 2000 reprises, ces prophètes ont dit ainsi dit le Seigneur. Aussi un homme dit ainsi dit le Seigneur, ce n'est pas l'homme qui parle, sinon il ne serait pas un prophète, il serait un hypocrite, voyez-vous, parce que cela ne s'accomplira jamais. Il aurait une chance sur un millier de milliers, voyez-vous, de deviner juste. Mais si c'est ainsi dit le Seigneur Dieu l'a dit. Si je disais ainsi dit Orman Neville, si mon frère disait ainsi dit Monsieur Mann, si je disais ainsi dit frère Veil, ici, ou certains de ses autres frères, n'importe quel d'entre vous, je répète ce que vous avez dit, je dis la vérité, je dis exactement ce que vous avez dit. Et ces hommes, là, qui étaient prophètes, et ont dit, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait à faire avec cela, mais c'est ainsi dit le Seigneur, alors la Bible est ainsi dit le Seigneur pour les prophètes. Remarquez, ils se revêtaient de l'Esprit de Christ et ils prédisaient les événements qu'ils allaient arriver. Vous parlez de prédiction. Ils ont dit qu'ils arriveraient tout au long des âges, tandis qu'ils étaient assis, qu'ils se tenaient tout debout, qu'ils étaient couchés, qu'ils marchaient avec l'Esprit de Christ sur eux à tel point qu'ils agissaient comme Christ et les lecteurs, lorsqu'ils lisaient cela, pensaient que les prophètes parlaient d'eux-mêmes. Vous voyez-vous, souvenez-vous de l'Eunuque qui était en train de lire Ésaïe 53:1, où il est dit, il était blessé pour nos transgressions, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. L'Eunuque a dit à Philippe, de qui parle le prophète? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Voyez-vous, le prophète parlait comme s'il s'agissait de lui-même. Vous voyez, David s'écriait dans l'esprit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes os me regardent, moi, David, ils ont percé mes pieds et mes mains, David, ils ont percé mes pieds et mes mains, mais tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, comme si David se disait lui-même saint. C'était le fils de David, cette semence spirituelle en germination qui descendait à cette lignée, bien que David lui-même fût un gratteron, à l'intérieur se trouvait un grain de blé, vous saisissez? Alors la Bible entière n'est pas la parole de Dieu, pas plus qu'elle n'a été écrite par l'homme, apportée par l'homme, et pas plus qu'elle ne peut être révélée par l'homme. Elle est la parole de Dieu révélée par Dieu lui-même, qui est son propre interprète. Christ se révèle lui-même dans sa propre... Regardez Christ, se tenant là en David. David n'arriverait même plus à penser. Il n'avait plus, comme on dit, toute sa tête. Il était suspendu à la croix, comme cette statue que vous voyez ici. Suspendu à la croix, s'écriant, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, mes os me regardent. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont enfoncé mon côté. » Voyez-vous? Pourquoi es-tu si loin de moi? Toutes les taureaux de Bazan m'environnent. Il secoue la tête en disant, il a mis sa confiance en Dieu, qu'il le délivrait, voyant maintenant, s'il le délivra, prononçant les mêmes mots. Alors, vous voyez, lorsque Dieu a été manifesté ici sur la terre, il a prononcé les mêmes mots que David. Vous saisissez? Alors, vous voyez, ce n'est pas la parole de l'homme, c'est la parole de Dieu. C'était Dieu en David. Ce n'était pas David. Il ne savait pas ce qu'il disait, tellement il était dans l'esprit. Il a été de même pour Moïse. Il était tellement dans l'esprit qu'il est sorti de la dimension dans laquelle il vivait et s'est tenu là face à face dans ce buisson ardent en train de parler à Dieu lui-même. Il lui a dit, ôte tes souliers, le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Je peux m'imaginer que lorsque Moïse est parti de là, il a dû penser, que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé? Qu'est-ce qui s'était? Il a dit, pars en Égypte, je reste avec toi. Il a dit, c'est tellement réel pour moi que je dois y aller. Il a dit, il a donc pris sa femme et ses enfants, ou plutôt son enfant, et son bâton à la main. Il est parti en Égypte pour délivrer le peuple. Voyez-vous, Dieu parlant lui-même à travers les prophètes. Voyez-vous, ils sont absolument, ce n'était pas les prophètes, c'était Dieu, parce que les prophètes en eux-mêmes n'auraient pas pu dire ces choses. Qui a cru ce que nous avons fait entendre? C'est Ésaïe qui parle, vous voyez. Qui a cru ce que nous avons fait entendre? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il prospérera devant nous comme un veau dans une étable, et puis il a été blessé pour nos transgressions, brisons pour notre iniquité. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous avons été guéris à cette époque lointaine à Ésaïe, là-bas, 800 ans avant Christ, voyez-vous. Par ses maîtresseurs, nous avons été autant passé guéris déjà là. Oh là là, comme la parole de Dieu est parfaite, mettez votre confiance en elle, mes amis. Elle seule peut vous sauver. Toutes les autres paroles, peu importe combien harmonieuses, agencées, de qui elles viennent, de quelle dénomination elles viennent, ou combien l'homme est intelligent, doivent être totalement ignorées. Tout ce qui est contraire à la parole, si vous voulez noter cette écriture, c'est Galates 1:8. Voyez-vous, Paul a dit que nous-mêmes ou un ange du ciel prêcherait quoi que ce soit en dehors de ceci, de ce que vous avez déjà entendu, qu'il soit anathème. Autrement dit, si un ange se présente à vous, venant du ciel, un ange éclatant de lumière qui se tienne là, oh là là, tout un appât pour ce jour-ci, n'est-ce pas? Un ange éclatant de lumière qui se présenterait, se tiendrait là, et dirait des choses contraires à la parole. Alors vous direz, Satan, loin de toi de moi, c'est juste, et qu'il soit évêque, qu'il soit, n'allez jamais le croire s'il ne parle pas exactement selon cette Bible. Mot pour mot, surveillez-le, il vous entraînera en utilisant la Bible maintenant, il vous entraînera jusqu'à un certain point, et ensuite, il fera un crochet quand vous voyez la Bible qui dit une chose et qui vous contourne cela, alors c'est le moment de le surveiller. Voyez-vous, c'est ce qu'il fait dans le cas d'Ève, c'est présenté là, de tout à fait dit avec précision. Eh bien, Dieu a dit ceci, c'est vrai. Ève, amen, nous croyons cela ensemble. Eh bien, Dieu a dit ceci, amen, nous croyons cela ensemble. Dieu a dit ceci, nous croyons cela, certainement. Mais Dieu a dit que nous mourrions. Mais voyons, il est un bon Dieu, tu sais. Mais il n'a pas dit qu'il ne le ferait pas, vous savez. Mais certainement que, le voilà. S'il a usé de tromperie comme cela, et que la Bible dit que c'est le dernier jour, et si du réel les élus, si c'était possible, quelle devrait être notre position aujourd'hui, mes amis? Nous devrions vraiment prendre ces petites leçons de l'école du dimanche à cœur. Vous savez, quand nous voyons, nous devrions écouter très attentivement et voir combien les choses sont trompeuses. Remarquez, nous ne devons pas écouter la parole d'aucun autre homme, peu importe combien intelligent, combien instruit. La Bible dit dans les proverbes que nous devons renverser les raisonnements, voyez-vous. Or, ici, dans cette dernière sphère, la première sphère, ce sont vos pensées, la vue, le goût, le toucher, l'odorat, et oui, si c'est le corps extérieur, pour le corps extérieur qui est l'esprit, il y a le raisonnement, la pensée, et ainsi de suite. Nous devons renverser tout cela. Il ne faut pas raisonner en disant, mais attends un petit peu, si Dieu est un bon Dieu, et c'est ce qu'on nous répète constamment aujourd'hui, s'il est un bon Dieu, alors si je suis sincère, bien que je ne vois pas cela dans la Bible, comme étant juste malgré tout, je ne suis sincère, je serai sauvé, vous serez perdu. Si je vais à l'église, que je vais simplement les choses que je crois être justes et que j'essaie de soutenir ce que je pense être juste, eh bien, vous êtes tout de même perdu. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Voyez-vous, vous ne serez pas sauvé, vous serez perdu, voyez-vous. Voyez-vous, ce doit être cet homme à l'intérieur qui tient les commandes. Mais j'ai parlé en langue, frère Branham, eh bien, ce ne croyez-vous pas que le fait de parler en langue, frère Branham? Absolument. Eh bien, j'ai crié, ne croyez-vous pas à cela? Oui, monsieur, je mène une bonne vie chrétienne. Ne croyez-vous pas à cela? Oui, monsieur. Mais cela ne veut quand même pas dire que vous croyez. Vous soyez sauvés, vous êtes une bonne personne, une bonne personne honnête, de bonne moralité, saint, quelqu'un de bien. Ces prêtres étaient aussi, ils étaient religieux jusqu'à la racine, tellement religieux que si l'un d'eux s'aventurait à donner une fausse interprétation et il était lapidé. La peine de mort, de tripoter la parole de Dieu, entraînait la mort. C'est ce qui se passe avec notre pays aujourd'hui. La raison pour laquelle tant de choses sont prises à la légère sur la terre aujourd'hui, c'est que la sanction ne sont pas assez sévères. Si on surprenait un homme à sortir avec la femme d'un autre, il devait être amené tous les deux au public, être castré là devant tout le monde, être ensuite relâché. C'est vrai, si on prenait un homme à faire quoi que ce soit de mal sur la route, tandis qu'il conduit trop vite, on ne devrait pas lui infliger une peine de moins de 10 ans. C'est un meurtre prémédité, voyez-vous. Mettez des peines de mort comme celle-là en application et vous les ralentirez. Mais quand vous, quelques politiciens malhonnêtes vont voir celui-ci et arriver à faire passer cela en disant, eh bien, ils avaient un peu bu, ils ne voulaient pas faire cela, il tue un homme, son épouse et toute une bande d'enfants innocents et on laisse celui-ci s'en tirer. Ça, c'est la politique. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est le diable. Dieu a dit que si un homme était surpris en adultère ou une femme, il fallait les amener, les lapider. Cela reflète la chose, voyez-vous. Si vous êtes pris à ramasser même le poids d'une petite branche le jour du sabbat, alors saisissez-le et lapidez-le. Il vivait d'après cela. Et à présent, vous voyez, nous n'avons pas ce genre de loi aujourd'hui, mais quand un chrétien à l'église, ceux à qui je m'adresse ce matin, cette loi de Dieu est dans votre cœur, voyez-vous, vous n'avez aucun désir de faire cela. C'est ici, à l'intérieur, vous voulez observer la loi de Dieu d'une façon parfaite, peu importe ce que c'est, vous voulez simplement être ce que... Si Dieu a besoin d'un paillasson à la porte, s'il veut que vous soyez ce paillasson, vous êtes tellement heureux d'être cela. Peu importe que vous êtes le paillasson, vous voyez-vous, tout ce que Dieu veut que vous fassiez, c'est ce que vous voulez faire parce que c'est Dieu. Maintenant, c'est ainsi que vous voulez vraiment constater ce que vous avez un vrai, authentique, véritable amour pour Dieu. Nous découvrons donc que si un ange prêche quoi que ce soit qui a été dit dans la Bible, qu'il soit anathème, personne n'a le droit de faire cela. Ça doit être tout à fait conforme à ce qui est dit. Et depuis, nous lisons dans Apocalypse 22, 18 et 19, si un homme ajoute un mot à ceci et en retranche un mot, Dieu retranchera sa part du livre de vie. C'est juste, Dieu retranchera sa part, qu'il soit ministre de l'Évangile ou quoi que ce soit d'autre et que son nom soit inscrit dans le livre de vie. Dieu a dit, je vais simplement l'effacer, c'est juste. S'il y ajoute une seule chose ou en retranche une seule mot, voilà à quel point Dieu a fait de sa parole quelque chose d'infaillible. Voyez-vous? Vous pouvez ajouter à l'Évangile ou retrancher de l'Église, mais n'allez pas ajouter à cette parole ou en retrancher quoi que ce soit, parce que Dieu ôtera d'un seul coup votre nom du livre de vie, et c'est à ce moment-là, vous êtes fini, voyez-vous. Vous ne pouvez pas y ajouter, ni retrancher, quoi que ce soit, c'est exactement ça. On n'a pas besoin d'interprète, car la Bible dit que Dieu fait sa propre interprétation de la Bible. Il ne peut être un objet d'interprétation particulière, a dit Pierre, très bien. Et toute l'Écriture est divinement donnée, divinement agencée, et toute la chose est une révélation de Jésus-Christ, le Nouveau et l'Ancien Testament, tandis qu'ils ont prédit sa venue et qu'ils feraient. Alors, lorsqu'il serait là, et ce qu'il ferait dans cet âge à venir, alors cela fait de lui le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Voyez-vous, comme on peut le lire en hébreu, où Paul a écrit cela, il est Dieu Jésus-Christ hier et l'Ancien Testament. Il est Jésus-Christ aujourd'hui manifesté dans la chair. Il est Jésus-Christ pour toujours et dans l'esprit à venir. Voyez-vous, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il est vie toujours. Il vit à jamais pour faire vivre sa parole et ce qu'elle a dit qu'elle ferait pour cet âge. Il est vivant, il était vivant dans l'Ancien Testament manifesté. Maintenant, je veux juste vous faire voir un petit quelque chose ici que si vous pouvez le supporter, surveiller. Lorsque Jésus a été manifesté dans l'Ancien Testament, ainsi que nous le croyons maintenant, vous, les prédicateurs là-bas, vous pouvez argumenter là-dessus, faire ce que vous voulez, mais je pense que voyez-vous, lorsque Jésus a été manifesté dans l'Ancien Testament, dans la théophanie, dans la personne de Melchisedec, non pas un sacerdoce, mais la personne, l'homme, voyez-vous, car cet homme n'était pas encore né, seulement il était dans une théophanie, il n'avait encore ni père ni mère, il était Dieu lui-même, il a été manifesté sous la forme d'un homme appelé roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix et de roi de justice, voyez-vous. Il était Melchisedec, il n'avait ni père, ni mère, ni commandement de jour, ni fin de vie, voyez-vous. C'était Jésus, une théophanie sous forme d'un homme. Mais souvenez-vous très bien, ensuite il l'a fait véritablement chair humaine et habité parmi nous dans la personne de Jésus-Christ lui-même. né de la Vierge Marie, il est venu sous cette forme-là afin qu'il puisse mourir, qu'il est ensuite retourné au ciel. Maintenant, dans ces derniers jours, il a promis de se manifester dans la plénitude de sa chair. À nouveau, en esprit, voyez-vous, parce qu'il arrivera du temps de Sodome, arrivera du même à la venue du Fils de l'homme. Alors, regardez Sodome, comment cela se présentait, ce qui est arrivé. Maintenant, Jésus-Christ était, qui est manifesté sous la forme corporelle de son Église aujourd'hui, voyez-vous, faisant la même chose, la même œuvre, la même chose qu'il a toujours faite. Il ne change jamais l'Éternel, voyez-vous. Et sur la terre aujourd'hui, il s'est manifesté dans le corps humain, nos corps humains qu'il a appelé. Il a fait exactement la même chose qu'il a fait plusieurs reprises du temps de sa chair sur la terre. Il a fait la même chose aujourd'hui parce que Dieu a plusieurs reprises à parler au Père par les prophètes et dans ces derniers jours par son Fils Jésus-Christ. Voyez-vous, le Fils étant révélé dans les derniers jours, Dieu manifesté dans la chair humaine, juste avant la destruction de Sodome, à la fin du monde, les gentils, le voyez-vous? Il y a trois manifestations maintenant. La chose qui arrive ensuite, c'est lorsque tout sera rassemblé dans cette seule parole, Jésus-Christ, l'épouse et le corps, lors du retour physique du Seigneur Jésus, ce qui fait ces trois fois, quand il a été amené sur terre, tué, crucifié, répudié, il s'est manifesté sous forme de corps, qui est son épouse, la femme, vous vous saisissez, elle était partie de son corps, et la femme de l'homme sont tellement proches l'un de l'autre, ils sont pareils, en tout cas, ils devraient l'être, et voilà donc, voyez-vous, ils sont tout à fait manifestée de la même façon. Elle est une partie de lui parce qu'elle a été tirée de lui. Et l'épouse aujourd'hui est tirée du corps de Christ qui se comporte et fait exactement ce qu'il a dit qu'il ferait à ce jour-là. L'épouse, la reine, le roi et la reine. La Bible entière et l'entière révélation de Jésus-Christ se faisant connaître à chaque âge, et s'il fait connaître du temps de Luther en tant que fondement de l'Église, le pied et les jambes, comme il l'a fait pour le roi Nebuchadnezzar, vous vous souvenez quand celui-ci avait eu ce songe, et cela partait de la tête en descendant, voyez-vous, et à présent, il pendait les pieds en montant, voyez-vous, dans le royaume de Babylone, il a monté tout ce qu'il y avait. Il y avait un trait à l'Ancien Testament. Il est de la tête en descendant jusqu'à ce qu'il arrive à Dieu lui-même, fait chair au pied de l'échelle. Maintenant, ici, dans le Nouveau Testament, il se ramène jusqu'en haut de la tête, de nouveau la tête d'or, qui doit être couronné, voyez-vous, saisissez-vous bien. Vous voyez, Dieu était au commencement, il est descendu continuellement à travers les prophètes jusqu'en bas, lorsque Dieu lui-même est descendu. Humain comme vous, tout au bout de l'échelle, un bébé né dans une crèche, détesté, rejeté, méprisé, avec un mauvais nom, et tout ce qu'il était ensuite, il s'est mis à grandir, voyez-vous, et à partir des pieds, il a commencé à bâtir l'Église, l'épouse, revenant constamment jusqu'à former la pierre de fêtière, où tout cela se joint, constitue le grand corps transfiguré de Jésus-Christ. Dieu est révélé dans chaque âge, par sa parole, promise pour cet âge. Maintenant, regardons donc certaines de ces paroles. Excusez-moi.
It's all right. I got something. I found a cigarette pack the other day laying in the woods. And I got a message from that cigarette pack.
J'ai trouvé un paquet de cigarettes l'autre jour par terre dans les bois. Et c'est ce paquet de cigarettes qui m'a donné le message que j'apporterai ce soir, le Seigneur voulant. Voyez-vous, donc j'ai ici ces écritures. Je ne veux pas vous garder passer l'heure afin que vous ne puissiez revenir. Un paquet de cigarettes qui parle, bon. J'ai commencé à marcher dans les bois et j'ai aperçu un paquet de cigarettes par terre et j'ai continué à marcher sans en faire un cas. J'ai pensé, tiens, il y a quelqu'un en avant. Et quelque chose a dit, fais demi-tour et va ramasser cela. J'ai pensé ramasser un paquet de cigarettes. Pas moi. Quelque chose a dit, fais demi-tour et ramasse un paquet de cigarettes. Je suis allé. C'était un vieux paquet de cigarettes vide et j'ai vu quelque chose. Je vous en parlerai ce soir, le Seigneur voulant, très bien. Maintenant, nous allons parler des lumières du soir. Rien que pour quelques instants, la Bible prédit qu'il viendrait un temps, juste à un moment de la fin où le soleil paraîtrait et où il y aurait une lumière du soir. Nous savons tout cela, n'est-ce pas? Nous qui sommes bientôt faits de notre message du Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous croyons qu'il y aura une lumière du soir. Et cette lumière du soir, bien sûr, la grande lumière viendra quand Jésus lui-même sera manifesté ici sur la terre et ou là-haut. jour dans les cieux lorsqu'il prendra son épouse et ensuite viendra le millénium. Mais nous avons un moment redoutable à traverser, un des plus redoutables qui ait jamais été réservé à des êtres humains. Et j'attends simplement l'heure et le moment où il nous sera possible, le moment où à l'occasion d'un congé, il sera possible à chacun de vous de passer quelques jours. Nous pourrons nous installer quelque part et on pourrait alors parler des fléaux, des choses qui vont s'abattre dans les derniers jours et donner cela à 2 ou 3 semaines, rassembler ça et si le Seigneur me le laisse vivre pour le faire et qu'il m'inspire pour cela, en voyant comment ces choses vont faire leurs apparitions et s'étonner et vous découvrirez alors le sens des rêves qu'ont fait ces hommes et ces gens et toutes ces choses, cela s'accomplira, vous voyez, pour remarquer ce qu'il révélait ce grand tonnerre venant des cieux maintenant. Bien sûr, tout le groupe ici, vous savez ce que c'est, ce que c'est là et ce que cela signifie, vous voyez, mais attendons que le moment soit venu, voyez-vous, mais maintenant. Maintenant, donc, nous allons lire quelques-unes de ces écritures que j'ai ici maintenant. Quand paraissait la lumière du soir, nous remarquons qu'il faudra que ce soit la même lumière que celle qu'il y avait le matin, parce qu'il n'y avait pas un soleil le matin et un autre soleil l'après-midi. L'après-midi, c'était le même soleil. Le même soleil qui est l'après-midi, elle a le matin, le même matin et après-midi. Et il dit qu'il est le jour lui-même et le jour qui s'écoulerait dans cette période de temps serait en quelque sorte semblable à un jour triste, sombre qu'on a pourrait s'appeler ni jour ni nuit dans cette période entre les deux. Voyez-vous, c'est la formation du corps depuis les pieds en montant. Lorsqu'il était ici sur la terre, il était le fils de la clarté et puis il a été tué. L'Église l'a remplacé, a été martyrisé, a traversé les âges des ténèbres et a commencé à bâtir sur le fondement qui avait été fait à son apparition. Or, d'où vient la vue? Du sommet de la tête. Vous voyez cette vision de Nebuchadnezzar. Le voyez-vous descendre depuis le commencement de l'âge et des gentils avant que le sang fût répandu pour eux et eux a fait l'expiation, ils étaient ses prosélytes. Mais remarquez que cela est descendu jusqu'en bas. Un symbole, voyez-vous, jusqu'en bas. Et puis cela est reparti, revenu, l'Église est revenue depuis là. Depuis les pieds, en montant, à présent, c'est le temps de la tête. Temps de la tête. Maintenant, remarquez la lumière. Vous ne pouvez pas voir avec vos mains. Pourtant, elle fait partie du corps. Vous ne pouvez pas voir avec les oreilles. Et pourtant, le corps peut entendre. Vous ne pouvez pas voir avec le nez. Et pourtant, vous ne pouvez pas voir avec les lèvres. N'y a-t-il pas, voyez-vous, c'est l'âge de Pancotis. Mais c'est maintenant le temps de l'œil, la vue, voyez-vous. Alors, il n'y a pas une seule faculté possible passer l'œil. N'est-ce pas vrai? Ce qui vient ensuite, c'est l'intelligence, c'est-à-dire Christ lui-même dirigeait tout le corps, il n'y a pas aucun mouvement passé cela, voyez-vous. Tout le reste a bougé, voyez-vous. Remuez vos pieds, remuez les muscles de vos jambes, remuez tout, et remuez vos orteils peuvent bouger, votre nez, vos lèvres, et ainsi de suite. Mais après, vos yeux, il n'y a plus rien qui bouge. On prétend que c'est pour cette raison que les hommes deviennent chauves rapidement, c'est parce que, voyez-vous, il n'y a pas d'exercice qui se fait là pour permettre de développer les muscles. Et la chevelure, du cuir chevelu, voyez-vous, et ce n'est pas coussiné, ce qui permettrait au sang de circuler à l'intérieur. Le sang ne passe pas librement jusque-là. Voyez-vous, ne monte pas pour aller fournir le sang, alors que, bien entendu, les racines de cheveux vit du sang. Et ici, nous voyons que cette partie-là, vous voyez, il n'y a rien passé l'œil. Voyons un peu. La lumière apparaîtra vers le milieu du jour, au temps du soir. Dans quel but envoie-t-on de la lumière pour vous permettre de voir ou comment vous déplacer? Est-ce que est-ce juste pour voir où vous êtes, vers le soir, la lumière apparaîtra. Prenons dans ce là maintenant et comparons-nous avec Malachi 4. Il a promis qu'au temps du soir, la lumière apparaîtra à nouveau, voyez-vous. Car voilà, voici, je vous enverrai Élie le prophète et il ramènera les enfants au père et les pères aux enfants. Est-ce juste de peur que je ne vienne frapper le pays d'étendue? Maintenant, prenons Jean, ou plutôt Luc 17:30, et regardons ce que Jésus a prophétisé là-bas quand il a dit ce qui arrivera du temps de Sodome arrivera du même. Maintenant, rappelez-vous, remarquez, ceci se passe au moment où le Fils de l'homme serait révélé, la révélation du Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme a bel et bien été révélé là-bas, potentiellement, rien que pendant quelques instants, juste avant que Sodome fût brûlé. Maintenant, cet homme-là était Elohim, c'était Dieu, et Jésus est Dieu. Et Dieu a été révélé potentiellement là-bas pendant quelques instants, afin de parler à Abraham au moment de l'investigation en vue du jugement. Juste pour un tout petit moment, le Fils de l'homme a été révélé. Le Fils de l'homme, Elohim. Le voyez-vous, Église, le Fils de l'homme, Elohim, a été révélé juste pendant quelques minutes, car dès le lendemain matin, il a été brûlé. Quand? Avant que le soleil puisse se lever à nouveau. Il ne peut donc plus y avoir d'organisation, pas plus qu'il ne peut y avoir de développement en dehors de ce qui est en train de se passer présentement, car elle sera brûlée avant que le jour se lève à nouveau à l'échelle nationale. Le réveil est terminé. Il n'y aura plus d'autres réveils. Des réveils de grandes envergures. Jamais cette nation ne recevra cela. Nous aurons peut-être des rassemblements d'intellectuels, mais je parle de réveil spirituel. Tout ce qu'il y avait à voir, nous l'avons eu. J'espère que vous saisissez, j'ai dit de manière que, j'espère que vous laissez, voyez-vous, c'est terminé. Un brave pasteur disait tout à l'heure, Frère Branham, si seulement je pouvais avoir la joie du Seigneur dans mon cœur. J'ai dit, fiston, le réveil est terminé, voyez-vous. Maintenant, les stabilisateurs ont été installés sur le navire. Il y a de grosses vagues redoutables qui nous attendent, mais nous savons juste que, au-delà de cette vague, là-bas, nous approchons du rivage, voyez-vous, nous approchons du rivage. Restez simplement stable, restez simplement dans la parole. Restez avec Dieu, peu importe comment. Vous vous sentez, quoi qu'il arrive, restez attachés à la parole. Maintenez la stabilité quand vous voyez tous ces gros nuages qui commencent, qui nous entourent, et ces tempêtes qui approchent, et les bombes atomiques, et tout le reste dont il parle, et notre stabilisateur, lui, il est bien installé. Dans la parole, Dieu a dit que cela reviendrait, et nous franchirons la crête de chacune de ces vagues. Oui, passerons par-dessus. Certainement, ils ne peuvent pas nous couler. Ils ne peuvent pas nous noyer. Mettez-nous dans la tombe, nous en ressortirons un poids si tout. Rien au monde ne peut maintenir cela en dessous. Nous franchirons la crête de chacune de ces vagues parce que notre grand capitaine en chef est en train d'appeler de l'autre côté. Quoi qu'il arrive, advienne que pourra, cela ne change rien. Nous sommes ancrés là, en Jésus. Si je vis, je vais vivre à la gloire de Dieu. Si je meurs, je mourrai à la gloire de Dieu. Je veux simplement, pourvu que ce soit à la gloire de Dieu. C'est tout ce que je veux. Lorsque tout sera terminé, alors que je désire pas rester plus longtemps, je veux aller là où se trouve la récompense qu'il a acheté pour moi. Non pas ce que j'ai gagné, mais ce que lui a acheté pour moi, ce qu'il m'a donné par sa grâce. Nous voyons donc que la lumière du soir est là, et à quoi cela sert? Il doit d'avoir de la lumière si vous n'avez pas Dieu pour voir comment vous déplacer grâce à elle. La lumière du soir, qu'est-ce que c'est? La lumière paraît afin de révéler quelque chose. C'est juste, s'il y a quelque chose ici que vous tâtez, mais que vous, dans l'obscurité, vous n'arrivez pas à faire une idée de ce que c'est, alors allumez la lumière, c'est afin de révéler. Tu vas faire Malachie 4, voyez-vous, la même chose. Vous devez produire l'ouverture des sept sceaux. Qu'en est-il de toutes ces dénominations qui avancent à un palmarès assuré? C'est afin de révéler, de faire ressortir. Si vous n'avez pas Dieu, à quoi sert-il de révéler? Pour voir, il faut d'abord qu'il y ait des yeux. Est-ce juste afin de révéler Malachie 4, de révéler Luc 17, 30, Jean 14, 12, également Jean 15, 24, 16, 13, et de révéler aussi Apocalypse 10, 1 à 7, l'ouverture des sept sceaux, le message du septième ange, c'est afin d'ouvrir, de révéler que paraissent les lumières du soir. Maintenant, si un homme dans l'âge de la Odyssée, les gens étaient quoi? Nus? Ne sont-ils aveugles? En quoi les lumières étaient-ils utiles à un aveugle? Si un aveugle conduit les aveugles, ne tombera-t-il pas tous dans la fosse? Nus et aveugles, ils ne le savent pas. Ils ont même perdu l'usage de leur faculté mentale, de leur faculté spirituelle, leurs entendements spirituels, voyez-vous, emportés. Enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calumniateurs, intempérants et ennemis des gens de bien, ayant l'apparence de piété, mais ayant renié la puissance de la révélation, ils ne croient même pas à cela, voyez-vous, les prophètes ne croient pas à cela, ils ne y croient pas, ils croient que le H4, ce sera une certaine église ou certaine organisation. Lorsqu'ils sont venus la première fois, il était un homme. Lorsqu'il est venu la deuxième fois, avec une double portion, il était un homme. Lorsqu'il est venu sous la forme de Jean-Baptiste, il était un homme, voyez-vous. Dans les derniers jours, lorsque les lumières du soir commenceront à briller, les yeux s'ouvriront. Alors vous verrez, vous allez. À ce moment-là, le corps est déjà formé. C'est un œil debout en se mettant en mouvement, bougeant. Mais cet esprit, quoi donc? Le même qui agit sur les prophètes et qui a écrit la Bible, le même cet esprit se mouvant dans un corps rempli de cet esprit, poussé par le cet esprit à sortir toute organisation de toute tribu, toute langue et tout peuple. Il y a ici une petite dame, elle n'est pas de cette organisation, elle n'est pas de cette assemblée, elle vient de quelque part ailleurs, elle est venue ce matin, elle avait une peinture, elle l'a donnée à mon fils, c'était très frappant, je ne sais pas si elle a déjà entendu parler de ceci ou pas, je ne sais pas, elle avait une peinture de cet ange du Seigneur qui était sur les sept âges de l'Église. Quand les sept sceaux ont été ouverts là-bas, quand cela s'est produit, elle a dit que lorsqu'elle a regardé en arrière, c'est ce qu'elle a vu dans le ciel en rêve. Elle a regardé en arrière et elle a vu quelqu'un en blanc qui s'avançait en marchant au pas derrière. Elle a dit que cela ressemblait à... Elle a dit, Frère Branham, c'était vous. Elle a dit que je me suis avancé en marchant au pas. Elle a dit, derrière vous, il y avait des gens de différentes couleurs portant des manières de la Georgie, de l'Alabama et de différents endroits s'avançant au pas. S'élevant vers la tête, là où Christ était révélé dans la vision. Oh, alléluia, nous sommes dans les derniers jours, dans les dernières heures du jour. Vous voyez maintenant dans sa parole et toute sa parole manifestée ici même devant vous. Oh, Église du Dieu vivant, levez-vous, croyez-le avec tout ce qu'il y a en vous, agrippez-vous à cette petite roue au milieu de la roue. Laissez-le stabiliser chacun de vos mouvements, chacun de vos gestes, chacune de vos pensées, soit contrôlé par cette tour à l'intérieur de vous, parce que Dieu est bien installé dans sa parole et la parole de cette heure, dans la lumière du soir, faisant briller la lumière, la cécité d'une chauve-souris allumée sur une lumière, et la chauve-souris serait tellement aveugle qu'elle ne pourrait pas voler. Les hiboux, tous ces rôdeurs nocturnes et les choses semblables, les blattes et autres ne peuvent pas voir lorsqu'il fait jour. Ils ne savent pas de quoi il s'agit, ils ne peuvent pas voir. Et les lumières du soir ont paru, chaque parabole où que nous nous tournions la nature et la Bible, les statues, le mail que Daniel a vu et le roi et ce que ce jour que nous, tous ceux-là, ont vu et tout le reste, chaque corps, chaque forme, chaque mouvement, chaque endroit dans le corps nous montre par son positionnement, l'heure même dans laquelle nous vivons, aucun autre mouvement ne peut venir au-dessus. Il y a eu un mouvement de la main de la charité Wesley, il y a eu le mouvement de fondement de Luther, la charité, jamais il n'y en a eu plus grand. C'est ainsi qu'il l'appelle, le mouvement Wesley, qui a envoyé des missionnaires dans le monde entier, l'un des plus grands mouvements qui soit produit dans l'âge qui a précédé. Ensuite est venu l'âge pentecôtiste. Alors sont apparus les différents doigts et autres, l'âge pentecôtiste, des langues et du nez, et ainsi de suite. À présent, ce sont les yeux et quoi? Cela vous avancerait-il d'avoir des yeux, d'avoir de la lumière? Si ces yeux n'étaient pas là pour voir, il faut d'abord qu'il y ait des yeux pour voir. Et une fois que cela est venu, il a ouvert les sept sceaux et a révélé la lumière du soir. Il a pris les mystères qui avaient été cachés tout au long de l'âge de l'Église. Il les maintient révélés comme il avait promis de le faire dans l'Apocalypse 10:1-7. Nous voici donc aujourd'hui installés au milieu de la parole et la parole nous était révélée par Jésus-Christ. Alors ceci est la parole de Dieu étant un sujet. Nous devons donc, dans notre marche, rester en liaison étroite avec l'auteur pour pouvoir le contempler, pour qu'il puisse nous révéler, ô Dieu, que veux-tu que je fasse? Dois-je aller dans les champs du travail de prêcher l'Évangile ou dois-je rester à la maison, peu importe ce que c'est? Que c'est si je dois être une bonne ménagère, si je dois être une bonne mère, si je dois faire ceci ou cela, ou autre chose, quoi que ce soit, je dois être fermier. Si je peux, ce que c'est, Seigneur, que veux-tu que je fasse? N'est-ce que ça, c'est écrit là-bas, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ici, se rendait, il était en chemin pour mettre toute l'Église en prison, mais voilà qu'il s'est écrit, que veux-tu que je fasse? Lorsque la lumière a jailli, comme une grande colonne de feu suspendue au-dessus de lui, que veux-tu que je fasse? Inclinons la tête. Je demande à tous ceux qui sont ici, sonder leur cœur maintenant et de poser la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et ceux d'entre vous qui sont encore liés par la ligne téléphonique un peu partout dans le pays, inclinez la tête et demandez, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voyant que nous sommes ici dans les derniers jours, dans les dernières heures, et que tout cela se présente devant nous, si parfaitement révélé d'une façon si claire, que veux-tu que je fasse? Et cher Dieu, pendant qu'ils te posent cette question, je la pose aussi. Devant toi, que veux-tu que je fasse? Seigneur, comme je suis bien conscient qu'il me faut rendre compte de chaque jour, et que je te prie de m'aider, Seigneur, à vivre chaque jour d'une façon telle que cela puisse servir à ton honneur et à ta gloire. Je te prie d'aider chacun d'un bout à l'autre du pays et ceux qui sont ici dans le tabernacle, tandis que nous sondons nos cœurs et que nous disons, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que je pourrais faire, Seigneur, pour aider à l'avance de ton royaume et de ta cause? Accorde-le, Dieu, sonde-nous nos cœurs et éprouve-nous s'il y a quelques iniquités en nous, Seigneur, quelques égoïstes, quelques mauvais motifs ou objectifs. Oh Dieu, purifie-nous par le sang de ton Fils, Jésus-Christ, que nous acceptons humblement et comme victime expiatoire par sa mort et sa résurrection, étant justifié en croyant qu'il a fait ceci, nous acceptons avec joie le plan du salut que tu nous as donné, Père. Nous te remercions par le message du jour que nous croyons et auquel nous nous accrochons, sachant et croyant que c'est la parole de ton message. Nous ne cherchons pas à nous faire remarquer, mais nous essayons simplement d'être davantage comme Jésus-Christ, lequel est notre exemple, cher Dieu. Il y a ici des mouchoirs, il y a des malades partout. Moi-même, Seigneur, je suis fatigué, épuisé ce matin. Je te prie de nous secourir, cher Dieu. Nous comptons sur ta force. Tu es notre force. Tu as secouru tant de gens, cher Dieu. L'autre jour, pensif, tandis que je marchais dans les bois avec Frère Bankswood, alors que les médecins, son cœur était si mauvais état qu'il avait de la peine à marcher, de penser combien j'étais loin de me douter de cela. Là-haut, tandis que je faisais cette promenade en montagne, après la vision, je me disais, il me faut ce lion, je dois voir à tuer ce lion. Et puis, comme je me trouvais à Tucson, à la cafétéria à feu, et que je fus, j'ai vu ses vêtements qui pendaient sur lui et ses yeux abattus, j'ai dit, oh Dieu, tu peux donner une vision pour me montrer où se trouve ce lion. Certainement que tu peux montrer quelque chose à Frère Wood. Voilà que c'est venu, pose-lui les mains. Et le voilà aujourd'hui, rétabli notre frère Banks Robus. Il monte et descend de la montagne en courant comme nous te remercions, cher Dieu. Tu es pour nous le même Dieu que pour Frère Wood. Je sais que tu l'aimes parce qu'il est ton serviteur en honnête et sincère. Je prie, cher Dieu, de traiter avec chacun de nous et de pardonner nos péchés et de guérir les maladies de notre corps. Rends-nous de jour en jour plus semblable à toi, Seigneur, jusqu'à ce que nous parvenions à la pleine stature de Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur. Je veux croire que tu es maintenant sondé chaque cœur que nous savons que nous devons faire. Nous te demandons maintenant de nous bénir au nom de Jésus. Et pendant que nos têtes sont inclinées, il y a quelqu'un ici ou là-bas parmi ceux qui sont reliés par le téléphone un peu partout dans le pays, quelqu'un qui aimerait, tandis que vous êtes en prière, à votre tête inclinée, simplement lever la main vers Dieu. C'est tout ce que vous pouvez faire, la salle est bondée ce matin. Levez simplement votre main vers Dieu en disant, « Oh Dieu, rendez-moi plus semblable à Jésus. » Je désirerais plus comme Jésus que Dieu vous bénisse aux quatre coins du pays. Il y a des mains partout. Cela forme une masse solide. La mienne aussi est élevée. Je désire être plus comme lui. Sonde-moi, Seigneur. Et si tu découvres quelque chose en moi, enlève-le. Je veux. Nous ne sommes pas ici que pour un certain temps, il nous faut tous partir, peu importe ce que vous êtes, que vous soyez riche ou pauvre, jeune ou vieux. J'étais un petit groupe de gens pauvres hier là-haut, dans la montagne, au bord du ruisseau. Il y a une petite famille qui habite là. Un homme à qui je parle de Dieu depuis un bon temps avec sa petite épouse et 7-8 enfants. Et cet homme est tout maigre, il est là, essayant de travailler pour gagner $2 ou $3 par jour. Quelqu'un leur a donné la permission de s'installer dans une petite cabane et son épouse est là-haut. presque sur le point d'accoucher d'un autre enfant, avec une grosse hache large. Elle coupait du bois, elle tenait un bébé sur sa hanche, et de l'autre main, elle traînait le bois. Elle était venue couper du bois, voulant mettre des murs en conserve afin qu'il n'y ait pas trop de faim pendant l'hiver. Et comme elle nous faisait pitié, Frère Wood et moi sommes allés chercher le camion, sommes allés lui couper son bois et l'avons rentré pour elle. Elle se tenait là, une petite femme reconnaissante. Elle me faisait pitié, nous cessions de prier pour eux. Son petit bébé a été pris d'épilepsie. Nous sommes allés prier pour le petit bébé. Et Dieu l'a guéri. L'autre jour, son mari s'était donné hernie. Je suis allé. Je lui avais parlé. Il fumait. Tous les deux, elle faisait usage du tabac. Et lui aussi. C'est typique des montagnards. Et je n'arrêtais pas de lui en parler hier matin. Quand je suis allé vers le lever du soleil, voilà qu'il sort en se tenant les mains, en me disant, Frère, je suis un homme transformé. J'ai fumé ma dernière cigarette. Et je suis du côté du Seigneur. Et présent, je viens juste de fumer, ma dernière. Aussi, quand on plante la semence, moi, le Seigneur, j'ai arrosé. Je l'arroserai jour et nuit, de peur qu'on ne la ravisse de mes mains. Ô Dieu, sois miséricordieux. Maintenant, je te prie, accorde-nous le désir de nos cœurs, parce que dans notre cœur et ce que nous voulons, c'est te servir. Maintenant, Père, ils sont tous entre tes mains. Partout ils sont, tes enfants, use de miséricorde envers eux, Seigneur, non pas de jugement, mais de miséricorde. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je le demande, y a-t-il un baptême ce matin? L'eau est prête. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, certainement, l'eau est prête pour le baptême de ce baptême. Nous sommes contents de voir tous les frères ministres et les évangiles. Je vois, frère, et votre union s'est bien passée, frère Parnell et frère Martin. Et il y a tellement ici, frère Livel, et il y a des ministres de l'évangile un peu partout. D'ici, nous apprécions certainement votre présence ici. Nous continuons avec nous autour de la parole. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec moi sur ce que j'ai dit. Je ne vous demande pas de l'être, voyez-vous. Tout ce que je vous demande, c'est d'y réfléchir. Ce que vous me dites, je vous prends en considération. Si les pasteurs prennent la bande en disant, eh bien, je ne suis pas d'accord, ça ne fait rien, mon frère. Vous avez peut-être des brebis dont vous êtes le berger. Vous alors donnez-leur ce qui vous plaira comme nourriture. Je l'aime.
I love him.
Je l'aime.
Because he first loved me. And purchased my
bois du calvaire. Chantons-la encore une fois avec les mains levées vers lui.
Salvation.
chante-le encore une fois avec nos têtes inclinées. Nous t'aimons, Seigneur. Seulement maintenant.
We just love you, Lord.
Nous t'aimons simplement, Lord. Seigneur. On te remercie tellement, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur.
Just ask our brother Andrew,
j'aimerais demander à notre frère Andrew de la Nigérie de terminer la réunion avec un mot de prière.
Shall we pray?
Prions.
Our dear Heavenly Father, Lord Jesus,
notre tendre Père Céleste, comment nous te remercions pour ce temps merveilleux dans ta présence, d'entendre ta voix nous parler, cette belle voix pour cette heure,
et
pour cet âge et pour ce temps. Nous te remercions te remercions d'avoir nettoyé nos yeux pour que nous puissions reconnaître ta voix, car c'est notre absolu pour ta. Pour ce temps, nous te remercions, Seigneur. Peux-tu nous être
et
pour nettoyer nos yeux avec ton esprit, avec ce messager, pour que ce soit une véritable manifestation pour ton épouse. Car ton prophète a dit que si nous demeurons dans la présence du soleil, tu allais nous faire mourir pour nous préparer pour l'enlèvement.
To hunt for your seed that are still outside there, Lord. We thank you for this
opportunity. Nous te remercions, Seigneur, pour cette opportunité, Seigneur. Nous te remercions pour ce message, Seigneur. Nous sommes tellement bénis.
Lord Jesus, we esteem it better, higher than any other thing on the face of this earth, O God. We are so grateful, Lord. May you bless
us, Seigneur. Nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur. Peux-tu bénir Frère Joseph qui met ce message devant nous, Seigneur.
Lord Jesus.
Bénis-le, Seigneur Jésus. Bénis tous tes enfants, Seigneur, qui entendent ce message.
We are so grateful. Dear Lord Jesus,
nous sommes tellement reconnaissants
from here
et
to
nous
go back to our respective homes, Lord. May you
nous te demandons de nous protéger alors que nous allons retourner dans nos maisons respectives. Que tu sois avec nous à travers le restant de la semaine. Que nous gardons ta parole dans notre pensée et d'entendre cette voix, car c'est la voix de Dieu pour cet temps de la fin. Nous sommes bénis et nous sommes reconnaissants. Nous le demandons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions. Amen. Jusqu'à ce que nous nous rencontrons. Jusqu'à ce que nous rencontrons au pied de Jésus. Dieu soit avec nous jusqu'à ce que nous rencontrons. Et chantons encore ce chant et serrez la main des frères et sœurs autour de vous.
Till we meet,
One more time together.
Encore une fois, tous ensemble, chantez-le de tout votre cœur. Jusqu'à ce que nous soyons. Jusqu'à ce que nous nous rencontrons. Jusqu'à ce que nous nous rencontrons au pied de Jésus. Sois avec vous jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Alors que nous quittons jusqu'à ce que nous nous voyons à nouveau. Shalom à vous tous. Paix à vous tous.